Nous sommes lundi 9 mai et vous écoutez Proxy Jeux. Bonjour Jérémy.
Bonjour Olivier.
Et bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de plein de petites choses. D'abord, des news, la réédition de Hanabi. Tu voulais me parler quoi, toi, Jérémy?
L'arrivée de Architecto Equilibrio par Gigamic.
Ouais. Un nouveau café ludique à Belleville, à Paris. Et puis, deux choses un petit peu plus grosses. D'abord, l'arrivée d'Exodus, qui est la deuxième extension pour Battlestar Galactica, le jeu de coopératif. Et puis, les écrans. Grosse actualité écran aujourd'hui.
Ouais, ok. Bon, il reste une news, mais ça fera la surprise pendant le numéro.
Une news et, surprise.
Voilà, et dans les écrans, beaucoup de choses. Beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, on verra. Je sais pas, je ne verrai peut-être pas tout. J'en garderai peut-être sous le coude pour la prochaine fois.
Oui, de toute façon, ça, c'est pas périssable. Hanabi, qui est un jeu de Antoine Boza et réédité chez Cocktail Games. Alors, Cocktail Games, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les petites boîtes métal.
Je vais y arriver. On va dire les boîtes métal, parce qu'ils ont maintenant ils ont un peu tout format de boîte.
Ouais, avec des formats un petit peu plus gros comme L'île interdite. Si vous connaissez L'île interdite, c'est Cocktail Games. Hanabi a d'abord été édité chez un petit éditeur, Les Douze Singes, et puis il a eu un beau succès, puisqu'il sera réédité très prochainement chez Mathieu Despnous de Cocktail Games. Hanabi, c'est un jeu coopératif, et un petit peu la particularité de ce jeu, c'est que chacun a des cartes en main qu'il ne voit pas, dont il ne voit pas la valeur. Donc c'est des cartes qui sont numérotées de 1 à 5, avec couleurs, 5 couleurs différentes, il faut faire des suites. Donc on a le droit...
Un rami.
Une sorte de, oui. On a le droit de donner des informations sur la main des autres. Par contre, on ne peut pas dire « tu dois jouer cette carte pour faire la suite ». En fait, c'est un jeu de déduction qui va conduire les autres joueurs à jouer les bonnes cartes pour faire des suites.
Et le but du jeu ?
Le but du jeu, c'est justement d'arriver à faire... Alors je crois que c'est faire 5 suites. Alors... À ma décharge, j'y ai joué il y a quelques mois. C'est un jeu qui ne me convient pas.
Pourquoi donc ?
Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu. Hein. Je suis en train de dire que ça ne me convient pas parce que c'est un jeu qui est très exigeant. Et, alors, dans les jeux coopératifs, en fait, le problème que moi, je vois, c'est que souvent, tu as un des joueurs qui va prendre le lead et qui va dire « Attends, toi, il faut que tu fasses ça. C'est le meilleur coup et il faut que tu fasses ça. » Et tu n'as plus rien à dire. Enfin, tu dis « Ben, bon... »
Okay. Tu peux quitter la table.
Ouais, c'est ça. Et puis continuer à jouer tout seul. Et puis voilà. Et là, tu n'as pas ce défaut en fait des jeux coopératifs. Par contre, c'est un jeu qui est très exigeant puisque tu vas devoir bien réfléchir aux informations que t'auront donné les autres personnes autour de la table et tu vas devoir faire les bons choix. Ce qui conduit avec moi à me faire engueuler. Puisqu'on
n'a pas pu te dire ce qu'il fallait faire, on te dit ce que tu as mal fait.
Voilà, c'est ça.
C'est bien.
On va dire, mais pourquoi t'as joué ça? Mais t'es nul. Enfin bon. Enfin, voilà. Je vous le conseille. En plus, c'est dans une réédition, ça peut sortir facilement. Ça tient dans une poche et c'est une bonne chose.
Et il était édité avant. Enfin,
oui.
Il y avait deux jeux dans la même boîte, mais c'est avec le même matériel. C'était Ikebana.
Hanabi et Ikebana.
Et est-ce que Ikebana, du coup, sera dedans ou pas?
Parce
que c'est le même matériel, non, il me semble.
Tu es toujours à me poser des questions pièges.
Ouais.
Je ne sais pas.
Bah voilà. Bon. Et alors.
Oui, excuse-moi, je crois que c'était le. De toute façon, tu as le même matériel,
donc
tu dois pouvoir jouer à Ikebana. Et je pense que les règles seront trouvables facilement.
Attention, j'ai plus piège maintenant. Hanabi, en japonais, ça veut dire, on va dire, on va traduire ça par feu d'artifice. En quoi le jeu, donc tu fais des suites, ça participe à la réalisation d'un feu d'artifice, c'est ça ?
Oui, le thème, c'est que les cartes étaient colorées et que voilà, l'idée, c'est de faire des feux d'artifice.
Alors c'est marrant parce que pour moi, Hanabi, c'est un film avant tout. Un film, parce qu'en fait, c'est sorti fin des années 90, donc bien avant le jeu d'Antoine Boza.
Un film français ?
Non, c'est un film japonais de Takeshi Kitano, donc pas forcément connu en France. C'est un personnage très très important au Japon. Il a débuté dans le comic à deux. Beaucoup de duo comic en fait au Japon. C'est une formule qui marche bien. Donc ils ont éclaté vraiment à la télé, etc. Fin des années 70, début des années 80, je pense. Ensuite, ça a permis à Kitano de faire un certain nombre de shows à la télé. À tel point qu'actuellement, je crois qu'il en fait 3 ou 4 par semaine sur différentes chaînes au Japon.
Oui,
il a un bon agenda. Mais ça n'empêche pas en même temps donc, de faire du... Donc tout ça, c'est du comique. Hein. Toutes ces émissions télé, c'est vraiment... Enfin, c'est rocambolesque, ces émissions. Mais à côté, c'est aussi un artiste. Il aime beaucoup la peinture et il s'est intéressé au cinéma. Donc il a réalisé plusieurs films. Hanabi, ça doit être son 4e ou 5e de l'époque, hein, qui date donc fin des années 90, et avec lequel il a remporté un prix. Je crois que c'est la Mostra de Venise. Dans le film, c'est l'histoire de... Donc tous ces films, c'est violent, pas du tout comique.
C'est noir.
C'est plutôt noir, et c'est autour des Yakuza et des policiers, la plupart du temps. Ces derniers films, il a un petit peu changé de thème, mais globalement, à l'époque, c'était ça. Donc c'est l'histoire de... Il y a plusieurs personnages, c'est notamment des policiers qui vont, lors d'une mission, se faire tirer dessus. Il y en a un qui va en réchapper difficilement et qui va finir handicapé, et qui va réussir à reprendre un peu le moral à travers la peinture. Donc ça, c'est un petit côté autobiographique de Kitano. Et puis l'autre personnage qui est joué par Kitano lui-même, qui, dont lui, sa femme, est atteinte de leucémie, et qui va donc... repartir ensuite, voulu faire un tour du Japon, etc., avant que la maladie l'emporte.
Oui. Ouais, moi, je suis sur IMDb, sur l'affiche du film, c'est juste marqué un chef d'œuvre de violence. Bon, ok.
Mais non, pourtant, bon, je ne sais pas quel était le public visé avec cette affiche. Je veux dire, il a fait d'autres films beaucoup plus violents que celui-là avant. Évidemment, il y a quelques scènes. Alors, dans ces films, ce qui est choquant, c'est qu'on peut avoir une scène toute calme et d'un coup la violence arrive là et repart aussitôt. C'est quelques coups de feu échangés, ça peut être un peu de sang qui gicle, mais son film, c'est pas beaucoup de violence dans celui-là.
D'accord.
Évidemment, il y a les Yakuza qui vont lui être après, si je me rappelle bien, donc il va falloir qu'il s'en débarrasse.
Classique.
Mais voilà. Le premier film qu'avait fait Kitano, qui était Violent Cop, là effectivement, c'est un policier, un ripou, enfin c'est pas un ripou, mais d'ailleurs très violent, qui a ses propres méthodes. Là, il y avait de la violence à fond. Là, on n'y est pas du tout. C'est plutôt poétique, je trouve. C'est un très beau film.
D'accord. Et tu nous le conseilles?
Ouais, si vous avez envie de vous ouvrir un peu autre chose que...
D'accord. Antoine Boza aime beaucoup le Japon. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a choisi ce thème-là. Il n'est pas que auteur de jeux de société. Alors, Antoine Boza, vous le connaissez parce qu'il a fait Seven Wonders. Vous le connaissez parce qu'il a
Ghost
fait
Stories.
Aussi, et surtout Ghost Stories, qui est un excellent jeu coopératif.
Mais c'est vrai que c'est sur Dame du Japon aussi.
Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et puis, on en a parlé dans le dossier sur les enfants. Il a créé le jeu de rôle Les Petites Sorcières. Il en a fait plusieurs, en fait. Allez sur son site. Alors, il l'a reconstruit, puisqu'il était sur... Enfin, son site, c'était toinito.free.fr. Maintenant, c'est www.antoineboza, tout attaché. Donc, Boza, c'est BAUZA.fr. Donc, allez sur son site. Vous verrez que c'est vraiment un artiste, en fait. Il n'est pas que auteur de jeux. Alors c'est pour ça que c'est bien que tu nous parles de cinéma, parce que nous on parle de jeux de société, mais
il faut aussi du cinéma.
Voilà. On continue avec Cocktail Games.
Allez, soyons fous, allons-y.
Alors j'ai entendu. Alors, est-ce que tu connais la radio des jeux?
Vaguement.
Vaguement. Ça veut dire quoi? Ça
veut dire que tu m'en as parlé, mais j'ai jamais écouté.
D'accord. Alors, s'il y a 3 podcasts qu'il faut que vous écoutiez, c'est en numéro 1, Proxy Jeux. En numéro 2, la radio des jeux. Et en numéro 3, Boîtecast. Alors, si vous
n'en écoutez qu'un, c'est nous. C'est déjà fait d'ailleurs.
Non, de toute façon, si vous écoutez maintenant, c'est que vous nous écoutez. Donc ça va. Sans rigoler. La radio des jeux existe depuis 2 ans. C'est la 2e année. Malheureusement, c'est un podcast qui va s'arrêter dans sa version actuelle et qui parle des acteurs du paysage ludique français et francophone, mais plutôt des acteurs en vue, donc les éditeurs, les illustrateurs, les auteurs, et qui reçoit dans chacun de ces numéros un ou deux invités. Donc la dernière fois, le dernier numéro, c'était Mathieu Despneaux, qui est un éditeur, et Roberto Fraga, qui est un auteur de jeux incontournable. Ils ont reçu aussi Pierrot, qui est illustrateur, Marie Cardois, Monsieur Fall aussi, qui est également incontournable dans le paysage ludique français. Croc, des gens comme ça. Enfin, des gens qui ont beaucoup de choses à dire, qui sont très intéressants. C'est pour ça aussi que j'aime la radio des jeux, c'est parce qu'on entend parler des gens qu'on n'a pas l'habitude de croiser. Alors, tu pourrais me dire qu'on a parfois des interviews d'un tel ou un tel sur format papier, mais c'est quand même pas pareil de les entendre parler.
Bon, vas-y, si tu fais les dialogues à ma place, je te laisse faire.
Voilà.
Mais effectivement, j'ai l'impression quand on lit Jeux sur un plateau, dont on a parlé récemment, on avait déjà un petit peu cette actu côté éditeur, côté auteur, à travers les interviews.
Oui, mais là, c'est mon côté people. J'aime bien entendre parler, tu sais, les petites informations croustillantes, les petits...
savoir un si petit peu de voix, un auteur sassote un petit peu, par exemple.
Sassote, ouais, c'est
ouais,
ça.
C'est pas. Pas.
Non, non, mais c'est intéressant de savoir que toutes les difficultés que les gens ont pu avoir dans la réalisation de leur projet. C'est intéressant de savoir que Pierrot, par exemple... Enfin, intéressant. Moi, ça m'intéresse. oui, je suis people. C'est intéressant de savoir qu'il y a 15 ans, il travaillait dans un cybercafé. D'ailleurs, si tu vas sur son site actuellement, il y a des griffonnés de BD qu'il faisait il y a 15 ans. Tu vois que le monsieur, il a quand même. C'est bien qu'il ait pris son crayon et qu'il ait fait autre chose que du cybercafé.
Et donc, bientôt sur Radio GSE, l'interview de Kate et William.
C'est ça. Donc, bon, revenons à la radio des jeux. C'est leur deuxième année. Ils font une émission par mois environ. Ils ont reçu plein de monde. Et là, ils vont s'arrêter. Donc, ils ont envie de faire un break, de changer peut-être le format d'édition de leurs émissions. Donc, bon, en l'état, c'est la dernière année. Et voilà. Sinon, Tibi, qui est une personne qui organise des soirées en Belgique, fait aussi des boîtecasts. Donc, c'est les soirées terribles. Et les boîtecasts, c'est des podcasts sur les jeux de société. Et lui a pris son micro, est allé interviewer un petit peu comme moi je peux le faire, mais avec des gens plus en vue, des auteurs, des acteurs du jeu de société, des éditeurs, des illustrateurs, des choses comme ça. Donc, un petit peu sur le même créneau que la radio des jeux, mais lui, il va sur le terrain. Donc lui il en est à sa 200 et quelques-ième édition, enfin c'est énorme. Donc
200
oui,
c'est un par semaine.
Non, je pense que c'est à périodique, c'est-à-dire quand vient Essen, il fait plein d'interviews puis après il les diffuse petit bout par petit bout.
D'accord, mais donc 200 ça fait combien d'années à peu près?
Je sais pas, ça fait longtemps.
Mais ça fait pas mal de temps.
Ouais, tout à fait.
Il a le courage encore, bravo.
Oui. Et il a d'ailleurs Boîtecast, c'est une application iPhone où vous pourrez télécharger également l'ensemble des podcasts. Vous pouvez trouver, il y a un moteur de recherche pour trouver les choses qui vous intéressent dans les podcasts, parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont un peu plus courts que ce qu'on peut faire, c'est-à-dire ça va de 3-4 heures d'émission pour la radio des jeux. Nous, on essaie de se limiter à 1h30. Et puis là, Tibi, c'est des fois, c'est 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est selon la... ce qu'il... Excusez-moi, c'est mon téléphone. Donc c'est 10 minutes, un quart d'heure en fonction de ce qu'on va dire les gens en fait.
D'accord.
Voilà.
Ce qui permet de tenir en fait l'attention de l'auditeur par rapport à nous.
Oui, on revient sur TED. tout ça. Voilà. N'hésitez pas si vous aimez les podcasts. Alors n'hésitez pas à télécharger à la fois et la radio des jeux et les podcasts. Jérémy. Est-ce que je continue ou...
Non,
je vais continuer quand même, excuse-moi, parce qu'on est en train de parler de Guillaume Montiage.
Ouais, vas-y.
Parce qu'en fait, la radio des jeux, c'est Guillaume Montiage et Frédéric.
Oui, surtout qu'on avait rebondi sur Cocktail Games au départ. On peut-être y arriver.
Donc c'est Frédéric Brelot qui est connu sous le pseudo de Frédéric sur Track Track et ailleurs.
Très original.
C'est ça. et donc Guillaume Montiage est connu parce qu'il est auteur de jeux, enfin il a fait un jeu qui est Nefertiti et puis surtout il est auteur de Soirée Enquête, La Mort s'habille de blanc, Beverly Place, et il a mis en ligne sur le site Murder Party Beverly Place 2 qu'on peut aller chercher gratuitement. Allez-y, je vous mettrai le lien, il n'y a aucun problème, et puis il faut y aller parce que c'est bien les Murder Party. Et donc, pour boucler la boucle, Guillaume Montiage va travailler pour Cocktail Games, pour Mathieu Despnous, sur une nouvelle gamme de jeux, qui sera la gamme Mystère et Pocket. Et donc, ça va nous permettre de faire des soirées enquêtes un petit peu au pied levé, avec la, en ayant la petite boîte dans notre poche, boîte métal dans notre poche, et puis proposer à des gens qu'à la fin d'un repas ou alors qu'on a une heure à passer ensemble, quand on a 8 ou 9 personnes, plutôt que de faire un time's up ou autre chose, mais on pourra faire une petite soirée enquête. Non, alors, c'est pas pour tout de suite, c'est prévu pour janvier 2012. Ça te laisse froid les soirées enquêtes, j'ai l'impression.
Non, c'est génial. On a déjà parlé avec Dieu est mort. C'est très bien. Le problème, c'est la logistique d'organisation qui n'est pas simple.
Voilà.
Et surtout quand on a des enfants, il faut trouver aussi plein de monde qui peut jouer et se débarrasser de ses enfants. Tout le monde n'a pas une cave où les enfermer pour la soirée. Donc, voilà. Je tiens à préciser, hein, s'il y a quelqu'un de la police, je n'ai pas de cave chez moi et je n'enferme pas mes enfants à la cave. Hein. On ne sait jamais maintenant.
Pour les faire se voler aussi.
Oui, il y a d'autres endroits que la cave. En Et en parlant de ça, c'est un petit peu différent, mais il y a longtemps, on avait parlé de... Enfin, il y a longtemps. Ça fait plus d'un an, en tout cas, qu'il y a une rumeur qui court, comme quoi Détective Conseil devrait être réédité. Peut-être par Istari, mais on n'a pas de nouveau.
Oui.
T'en sais plus. Non. Toi qui es très people, qui est au contact.
J'écoute là, tout la radio des jeux.
Ah ouais, c'est tout.
Bah, c'est déjà pas mal. Non, mais... alors, je sais que c'est un projet qui tient à cœur de Cyril Demegue. Mais c'est quelque chose qui est, c'est un travail immense. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas, Détective Conseil, c'est un grand ancien de Descartes. Les années 80 et l'éditeur français majeur de ces années-là, qui a d'ailleurs donné lieu à des boutiques du même nom. Les éditions Descartes ont sorti un classeur avec des enquêtes à la Sherlock Holmes. D'ailleurs, qui sont complètement avec un environnement qui est complètement basé sur celui de Sherlock Holmes et sur les romans du même nom. Et les enquêtes sont incroyables, c'est-à-dire qu'on a un annuaire de Londres, on a un plan de Londres avec un quadrillage où on peut retrouver les personnes qu'on a dans l'annuaire.
À la manière d'un livre dont on est le héros.
Tout à fait. Et on va décider, en fait, il y a une mise en condition, une introduction à l'enquête. Et puis, on va décider où on veut aller. Donc, on va pouvoir... Le champ est totalement libre. On laisse le joueur faire ce qu'il veut. Et il y a même parfois des enquêtes où il y a le strict minimum et où là, tu te démerdes complètement. Et il va falloir dire, bah, moi, je vais aller voir cette personne-là. Donc, tu regardes sur la carte, tu le cherches dans l'annuaire, tu le regardes sur la carte, tu dis oui, effectivement, ça correspond aux informations qu'on nous a données. Puis, tu avances dans l'enquête. L'idée, c'est d'être plus rapide que Sherlock Holmes. Alors, donc, c'est compliqué parce que imagine-toi que tu as un nombre de paragraphes correspondant à à beaucoup d'endroits où on pourrait éventuellement
avec les
aller
pistes, ouais.
Avec les pistes en disant oui là tu vas trouver une information ou là ben non parce qu'il faut quand même que tu arrives quelque part et qu'on dise où t'es trois lignes de
ouais mais le jeu est déjà prêt enfin je veux dire ok il y a des adaptations j'y ai joué on se dit oui il y a quand même du travail d'adaptation parce que c'est pas simple d'accès en fait il faut le faciliter mais...
ça sera jamais simple d'accès. C'est toujours un jeu où il va falloir réfléchir, où
ouais,
tu ne seras pas guidé. Ou,
Ouais, mais c'est le jeu où. Ouais, mais enfin bon. Je sais pas, il y a peut-être des moyens, enfin justement, c'est peut-être en 20 ans, presque 30 ans, le monde du jeu a évolué. Peut-être que, je sais pas, dans la maturité des éditeurs, la façon d'amener un jeu, peut-être qu'ils sont capables de dire, bah oui, on peut faciliter le jeu comme ça ou comme ça. J'en sais rien, je dis ça dans l'absolu, mais ça me paraît pas impossible. Le monde du jeu, c'est vraiment industrialisé, c'est vraiment. C'est une belle machine maintenant quand même. Hein. Les jeux qui sortent sont tous au beau graphisme et machin. Tout est prêt là-dessus. Donc on peut dire que c'est pareil sur la préparation, oui. L'adaptation d'un jeu.
Sauf que là, je pense qu'on parle d'une réédition complète. C'est-à-dire que tu vas complètement transformer l'objet ludique.
Ce sera plus un classeur.
Alors c'est ce qu'ils vont faire. De toute façon, je crois qu'ils vont abandonner le format classeur. Mais si tu veux, ils sont en train de réécrire les paragraphes. Et de remettre en forme les enquêtes qui sont peu intéressantes. Donc ils enrichissent ce matériel, mais ils sont pas en train de refondre complètement le système. Enfin, pas à ma connaissance.
Et là, et on est sûr que ce sera Istari. Enfin, je sais pas s'ils en ont parlé. Bah, je crois qu'ils ont radio des jeux. Ouais, c'est fait. Non, maintenant qu'on a parlé qu'il y avait Studio Descartes, on sait jamais. Ça pourrait arriver en Studio Descartes. Hein, Asmodée, si tu nous écoutes.
Non, mais c'est surtout que
en coédition.
Le monde du jeu est assez ouvert. C'est un monde qui est pas très très gros.
Ouais.
Où les gens se connaissent, où les éditeurs ont tendance à se transférer les jeux quand ça va pas dans leur gamme. Et bon, alors, ça a été pris par Cyril et son équipe. Je sais pas si.
Ouais, il peut y avoir une coédition ou autre.
Ça serait une très très bonne nouvelle que ça sorte. Je pense que ça va sortir un jour ou l'autre parce que c'est clairement un superbe jeu dans tous les sens du terme. Bon, après avoir. Et j'ai tout ça pour dire que je n'ai pas plus d'informations que ça.
Voilà, mais c'est bien. Maintenant, on a donné envie à nos éditeurs.
Voilà.
Donc, si vous voulez en trouver un, bah, c'est eBay.
C'est eBay.
Et puis, c'est...
une centaine d'euros.
Une petite centaine d'euros, mais
voilà,
bon.
C'est ça. Hein. Non, ou alors, il faut prendre la patience et puis il faut attendre la réédition. Ouais, Jérémy, je crois que tu voulais nous parler aussi de la nouvelle collection de Gigamic.
Ouais, alors on va pousser les verres à bière, on va éviter un accident sur la table, c'est électronique.
Tu peux me passer Architecto ?
Voilà.
Architecto ?
Et donc, merci. Je voulais parler, donc j'ai vu cette news il n'y a pas longtemps, donc Gigamic va distribuer en France les jeux d'une collection, en fait il y en a 4 normalement dans la collection, il y en a au moins 2 qui seront distribués dans un premier temps, c'est Architecto et Equilibrio. Donc, c'est des jeux dans la série Brain Builder Series. C'était les éditeurs derrière, c'est Fox Mind et Smart, moi, sur ma version. Donc, je pense maintenant que ce sera Gigamic tout court. Le concept du jeu, quand même, c'est assez fort. Donc, c'est des jeux qui se jouent en 3D. Dans chaque boîte, il y a un matériel qui est le même.
Des petites pièces en plastique orange.
Ouais, voilà, un plastique orange, bon, qui n'est pas forcément... super sexy, hein, faut quand même avouer. Bon, faut aimer l'orange, mais même celui-là, le plastoc est pas exceptionnel. Mais bref, le jeu par contre vaut le coup. Donc les pièces sont de différentes formes, donc c'est en 3D. Hein, donc on va dire il y a des rectangles,
des cylindres,
des carrés, des cylindres,
des cubes.
Ouais, voilà. Des sortes de cylindres biseautés. Je
sais pas comment. Des carottes.
C'est une carotte carrée quand même. Hein,
c'est ça.
Mais bien biseautée.
Des arches,
des triangles et des demi-cercles.
Ouais.
Voilà, donc à côté de tout ce beau plastoc, on a
sorti des années 80.
Ouais,
la première édition,
parce qu'elle est saisonnée.
C'est 2000.
Qu'est-ce que
tu veux ? L'édition.
2003.
En 2003, ouais.
Ouais, ouais, c'est
sorti des années 70, mais.
mais bon, bah, c'est un côté nostalgique. Alors. et donc à côté de ce matériel, donc, il y a un livret. Alors un livret qui contient environ 60 problèmes. Et en fonction du jeu que vous avez, évidemment, ça va être différent. Donc là, par exemple, moi, j'ai Equilibrio devant moi. Le but d'Equilibrio, ça va être de reproduire des figures qui vont devoir tenir en équilibre. Donc, sur le problème, alors on vous mettra peut-être une copie d'écran,
oui.
Une image.
Pour que vous fassiez vraiment l'idée.
Pour que vous puissiez visualiser.
J'ai devant moi une navette spatiale, parce que j'ai récupéré Architecto. J'ai une navette spatiale, enfin la navette Columbia.
Voilà, bon courage.
Je vous la mettrai, je vous mettrai en ligne.
Alors, donc il y a plusieurs niveaux de difficulté évidemment à travers les 60 problèmes. Donc on vous demande, enfin un visuel qui indique le résultat attendu et puis en bas de la page il indique quelle pièce vous devez utiliser pour y arriver. Donc dans Equilibrio c'est simple, il suffit simplement de, enfin simplement, c'est un grand mot, hein, d'empiler les pièces de manière à ce qu'elles tiennent en équilibre pour reproduire la figure. Voilà. Dans Architecto, par contre, c'est bien plus complexe puisqu'il va falloir reproduire une figure mais dont on n'a pas le détail exact des pièces utilisées. Donc, il va falloir pas mal manipuler ces pièces. Là, je vois Olivier qui commence à être en mode panique.
Moi, je suis
interloqué. Tous les compteurs sont au rouge.
J'ai trop de pièces.
Ouais, mais est-ce que tu as bien pris d'avoir tes pièces dont tu as besoin ?
Oui.
Je vois qu'il triche un petit peu. Donc voilà, alors le principe du jeu, comme en fait dans chaque boîte il y a le même matériel, il suffit de s'équiper de deux boîtes pour pouvoir jouer à deux. À la base,
c'est
évidemment.
C'est un jeu solo.
Ouais, à la base, c'est un jeu solo, c'est des puzzles à résoudre tout seul.
Ou alors, c'est un jeu. Chacun va faire sa structure, chacun son tour.
Ouais, mais c'est pas. Une fois que t'as vu la solution, c'est pas bon.
C'est ça.
Donc, avoir deux boîtes, c'est bien. Donc, moi, j'ai deux boîtes, j'ai Architecto et Equilibrio.
Et dis, Madame Gigamic, est-ce que tu nous mettras deux fois les pièces dans ta boîte ?
Ah ouais, sinon...
Ça serait pas mal.
Non, sinon, t'achètes pas deux fois les jeux. T'achètes pas les deux jeux.
Oui.
Non, mais ceci dit, les jeux sont tous intéressants dans cette gamme. Donc bref, j'en ai acheté deux. Comme ça, j'ai toutes les pièces en deux fois, donc on peut jouer à deux. Et ce qui est intéressant, alors... C'est ce que j'ai fait moi, en tout cas, maintenant. Je sais pas comment ce sera distribué par Gigamic. Je me suis procuré... À côté, les livrets des deux autres jeux de la série qui sont Clico et Tangramino.
J'ai fini.
Ouais, mais t'as mis les pièces que tu voulais.
Non. Non, j'ai mis des bonnes. Bon, passons.
Donc, Tangramino, c'est un petit jeu basé sur le concept, la structure, c'est la figure, la structure d'Olivier. Donc, dans Tangramino, le but, c'est de reproduire des figures un peu comme un tangramme. Donc c'est le jeu sans doute le plus accessible pour les enfants après Kiwi-Yo. Et dans Clico, c'est le plus dur. Il faut reproduire donc des structures en 3D aussi, dont on ne voit que des aperçus sur le côté ou vu de face. En sachant qu'il y a quelques pièges dans cela, puisque certaines pièces, des fois, sont un petit peu dissimulées dans la structure finale.
Je vais peut-être te répéter, mais il y a des niveaux de difficulté. Donc là, la navette spatiale, c'est assez difficile. C'est un niveau de difficulté assez important, mais j'ai un peu plus de 7 ans. Puis après, ça dépend aussi le temps qu'on passe. Et je pense qu'il y a certaines formes qui sont un petit peu plus compliquées que celle-ci.
Ah oui, il y a des trucs qui sont compliqués. Donc dans cette collection, dans les 4 jeux, ils sont tous faits pour des âges un petit peu différents. Enfin, c'est pour évoluer. On commence par Equilibrio, donc il faut juste empiler. Enfin, je dis faut juste, c'est une façon de parler. Il y a quand même certains modèles qui sont pas simples, à mon avis. Et avec les enfants, ça peut vite tourner au drame. Mais bref, soi-disant, c'est à partir de 5 ans. Ensuite, donc j'avais dit, il y a Tangraminou à partir de 6 ans. Ensuite, c'est Architecto à partir de 7 ans. Et Clico qui est en dernier, qui est à partir de 8 ans. Et qui peut même s'avérer auteur pour des adultes.
C'est Clico le dernier ?
Ouais. Tu vois, il faut faire ça, par exemple.
Oui. Oui, parce que là,
déjà, l'esprit a du mal à... J'ai du mal à visualiser.
Autant dans Architecto, on a une sorte de volume, mais qu'on arrive à intégrer en 3D, alors que là, on a 3 images, une de chaque côté.
Ouais.
Donc là, c'est devant, là, c'est sur le côté.
Avec le détour des pièces qui apparaissent quand on regarde comme ça.
Ouais.
Mais ce n'est pas forcément la pièce qui sera réellement...
C'est clairement plus compliqué.
C'est un niveau au-dessus.
Et donc, c'est un petit peu... on n'en parle pas assez. Ça me fait penser aux jeux en 3D, en fait. J'ai en tête un jeu auquel on a joué ensemble il n'y a pas longtemps, c'est Pueblo.
Ah oui.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pueblo, c'est un jeu dans lequel on a chacun un nombre déterminé de pièces. Alors, je crois qu'on en a 5...
Ça 11. Dépend du nombre de joueurs, en fait.
Enfin, on a une dizaine de pièces, plus une... et puis avec ces pièces sont soit de notre couleur, soit d'une couleur neutre, et on va devoir les placer sur le plateau. Et on va avoir un petit pion qui va faire le tour du plateau et qui va nous pénaliser à chaque fois qu'il va voir notre couleur. C'est-à-dire qu'on va poser une pièce, l'avancer, et on va regarder de façon verticale ce qu'il voit. Et en fait, on va pénaliser les joueurs qui ont leur pièce visible. Et de la même façon, quand il va arriver au coin du plateau, sur l'échelle de score, on va plus regarder le jeu de façon verticale, on va regarder le jeu de façon horizontale, et on va regarder par-dessus pour voir quelles sont les couleurs visibles. On va pénaliser les joueurs dont la couleur est visible. Et en fait, on va continuer. C'est pas très très pas très très long. C'est un casse-tête parce que toutes les pièces sont identiques et jamais dans le bon sens. Donc on est toujours à râler parce que ça marche pas. C'est toujours dans le mauvais sens. Et puis au fur et à mesure, d'abord on essaie de se cacher, on peut se camoufler et attendre que le petit bonhomme soit passé pour tout de suite construire derrière, mais ça dure qu'un temps et au bout d'un moment, le plateau n'étant pas très très large, il faut monter, et plus on monte et plus on est vu en haut, et plus on va avoir des points de pénalité et plus c'est le drame. Excellent jeu.
En plus on peut corser le jeu, on l'a pas fait l'autre fois, mais on peut rajouter des petits bouts de carton sur le plateau pour interdire la construction sur des endroits clés.
Ah, on réduit encore le...
Ouais, ça réduit encore très méchamment le plateau. Donc là, c'est... Bon. Il faut en faire quelques parties pour être...
C'est ça.
Pour être chaud.
Excellent jeu. Le principal point négatif par rapport à ce jeu, c'est qu'il est...
Plus édité. C'est un gros point négatif.
Voilà, c'était un jeu Ravensburger. Enfin, c'est un jeu Ravensburger, mais que vous pourrez trouver difficilement.
Ouais, déjà, il a mal été distribué en France. Hein, je pense uniquement dans les boutiques spécialisées.
Et donc, j'ai regardé tout à l'heure sur le Board Game Geek. C'est le site de référence en anglais, si vous avez un petit peu de connaissances, si vous êtes anglophile, n'hésitez pas à vous rendre sur boardgamegeek.com. Il y a un matériel énorme sur le jeu de société, que ce soit des photos, que ce soit des articles, puis les gens font des revues, il y a des points de règle, il y a des foires aux questions, il y a plein de choses. Et il y a un marketplace, c'est-à-dire qu'on peut mettre en vente sur Boardgamegeek son exemplaire de Pueblo. Et là, en l'occurrence, il y a bien un exemplaire en vente pas très loin en Allemagne. Sauf qu'il est mis à prix 50 euros.
Voilà. Donc, si vous avez la chance d'aller à Essen, mettez quelques sous dans la tirelire Essen.
C'est ça.
Et vous l'achèterez d'occasion là-bas. Mais même là-bas d'occasion, je pense pas qu'on en trouve beaucoup. Voilà. Du coup, moi, je vais rebondir. Autre jeu en 3D aussi que j'ai beaucoup apprécié en son temps, qui est sorti d'ailleurs à la même époque à peu près que Pueblo.
C'est 2002, Pueblo.
Ouais, bah, je crois qu'on n'a pas dans la même zone, soit 2002-2003, et qui est plus édité non plus, si je ne me trompe pas, c'est Roomies. Alors, Roomies, c'est un jeu de Stéphane Kögle qui a été édité chez Mourmel, alors dans une boîte.
Google? Google?
Kogle, Kogl.
Kogle.
Kogle. Qui a sorti d'autres jeux d'ailleurs, un pour deux maintenant, la Caminos, qui joue aussi en 3D. Mais bref, on va parler de Roomies. Donc, dans Roomies, les joueurs ont des pièces. En 3D aussi, qui font penser à des pièces qu'il y a dans Tetris. Le L, le T, sorte de S, un carré. Et ils vont devoir construire une structure qui est déterminée par le plateau au départ, par exemple une pyramide, un escalier. Et là, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que les points sont marqués en fin de partie, contrairement à un Pueblo où c'est des points négatifs. Là, on marque des points positifs en regardant par le dessus uniquement ceux qui se voient. Tout ce qui a été construit dessous et qui n'est pas visible du dessus, c'est tant pis, c'est perdu. La particularité aussi du jeu, c'est que pour pouvoir poser ces pièces, il faut qu'elles touchent, par au moins par un côté, une pièce de la même couleur. Donc que le joueur a déjà posé avant. Et donc c'est à la fois un jeu, donc il faut bah, en 3D, enfin de points, etc. Mais c'est aussi un jeu de blocage. On va aussi des fois tenter de bloquer l'adversaire pour plus qu'il puisse construire dans certaines zones, pour se les ménager pour soi et pour être sûr d'avoir les points.
Ouais, est-ce qu'on ne retrouve pas du tout dans Pueblo? Parce que dans Pueblo, on essaie de plus de se cacher et puis de profiter. Enfin, on essaie de pas cacher les autres, en fait. Il n'y a pas beaucoup de blocage à part utiliser les meilleurs endroits où on sera moins visible.
Voilà, donc c'est vraiment c'est dynamique, c'est aussi bon de 2 à 4 joueurs.
Quelle la durée à peu près de ce truc-là?
C'est 20 minutes une partie, je pense, sur un
D'accord.
plateau, hein. C'est pas très long, hein. On a
Oui.
une, je sais pas, on a 12-15 pièces, je crois, à placer. De toute façon, en fin de partie, on ne peut jamais tout placer. Et bien sûr, on marque des points négatifs pour les pièces qu'on n'a pas placées. Quel dommage. Un peu. Donc j'allais dire comme Blocus, et justement. Le jeu a été repris par Sequoia pour étoffer sa gamme Blocus, et donc le Roomies est devenu Blocus 3D. Donc c'est pas le concept du Blocus de base où il faut bloquer l'adversaire, etc. Mais comme il y a une partie blocage dans Roomies, ça colle bien dans cette gamme. Donc voilà, donc il y a eu Blocus 3D en plastique. Par contre, c'est plus en bois. Et puis,
C'est moins bien.
bah moi j'aime pas le
Au côté.
plastique. Alors le Roomies, j'ai même pas parlé, ma première édition quand même. Faudrait que je te montre Olivier la mienne. C'était des petits cubes en bois qui étaient assemblés les uns, qui étaient collés les uns sur les autres. Donc le gars, c'est de la micro-édition. Genre le gars, il a fait ça dans sa cuisine, tu vois. Il a mis
Son
ça
garage.
son garage, si tu veux, son salon. Il a peut-être fait travailler des petits enfants.
C'est ça, dans
Je
sa
sais
cave.
pas. Si
vous
On est
voulez
toujours
être
sur la tête des
tranquille,
enfants et des caves.
voilà.
Voilà. Il a mis ses enfants dans la cave un soir. Il faisait une murder et il leur a demandé de coller des petits cubes.
C'est ça.
Donc bref, c'était un. Ah, ça faisait vraiment artisanal, comme bon, c'était comme vendu de prix fort. La boîte était même pas sous sellos, si je me rappelle bien. C'est le truc
Mais
vraiment.
c'était de la micro-édition.
Ouais, je pense. Enfin, Mourmal, c'est. Je pense que c'est pas un gros éditeur, c'est un éditeur suisse. Donc voilà, après, je crois qu'ils avaient refait une version avec où les pièces étaient plus des petits cubes en bois. Elles avaient été quand même vraiment moulées en bois d'un seul tenant. Donc là, il y a la version plastique. Alors, le seul truc qui est bien sur la version Blocus 3D, c'est que le plateau peut pivoter tout seul. Parce que par défaut, dans Pueblo et dans Roomies, on a besoin en permanence comme ça en 3D de tourner le plateau.
Il faut faire le tour de la table.
Ouais, ou faut faire
C'est un jeu
tourner
où.
doucement le carton.
Non, c'est un jeu qui se joue debout en fait. Parce que tu regardes aussi tu regardes de par-dessus et
Et ouais,
par-dessus.
voilà.
Donc.
Alors, ça demande un peu d'exercice physique, c'est difficile.
Waouh!
Donc voilà. Par contre, donc Roomies en tant que tel, du coup, n'existe plus puisque Sequoia a racheté les droits, je pense.
Ah, par contre, vous avez sur le marketplace de BGG, BorgenGeek, un remis pas cher à 25 euros en Italie. Bon, il y a les frais de port
Ah, puis c'est l'Italie. Ouais. Ouais,
Pardon.
ça fait les frais de port, ouais.
Voilà. Mais ça reste raisonnable. Et là, bon, c'est enfin un jeu qu'on peut acheter,
Attention.
dont on parle, dont
Par contre,
on.
attention, hein, ce sera le premier de vous qui l'aura, hein, il n'y en a qu'un.
Voilà.
Et parce que Blocus 3D, en fait, il me semble, enfin, j'ai regardé rapidement non plus, n'a plus l'air d'être édité actuellement, je l'ai pas vu en tout cas sur les boutiques en ligne. Alors peut-être que la petite épicerie du coin en a encore. Quand je dis l'épicerie, c'est votre boutique de jeux quand même, hein.
Oui, il faut se méfier. Alors, il y a Ludic Bazar qui fait des jeux d'occasion.
Ouais, peu. C'est les boutiques en dur après qui peuvent peut-être vous sauver.
Oui, qui ont dans leur stock.
L'autre solution, c'est de plus nous écouter.
Non, non, c'est pas une bonne solution,
Si,
ça.
bah si, bah ouais, mais au moins comme ça, ils n'ont plus envie d'acheter les jeux.
Voilà.
voilà, donc bref, c'était les bons jeux 3D, Pueblo, Roomies de l'époque. Malheureusement, 10 ans après, il n'y a plus de jeux 3D, c'est dommage.
Ah. Si, alors par contre, il y a un site qui s'appelle Ocaseo. Alors attends. Et il semble que sur Ocaseo, vous ayez un Rumis et un Rubis
Non,
Plus.
tu les as pas. Il y a des rois, non.
Ah mince. Bon, bah, écoutez,
Roomies Plus, ouais, j'en ai pas parlé, mais c'est une version à deux joueurs en fait. Bon. Petite adaptation de règles, c'est très bien aussi.
Donc c'est là que, en fin de compte, très longtemps, enfin, pas très longtemps. Je me suis dit il y a quelques temps que aujourd'hui, avec la profusion d'éditeurs et avec le marché du jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui, on ne pouvait plus avoir de bons jeux non plus réédités. C'est-à-dire, c'est un petit peu, on parlait de Détective Conseil tout à l'heure, c'est incroyable. Il y a une cible qui est assez limitée, mais c'est un jeu incroyable. Et là, tu te dis effectivement, il faut garder raison et ne pas acheter tout ce qui passe devant nous. Une collection de jeux, parce qu'on est un peu collectionneur, un peu joueur, enfin beaucoup joueur et un peu collectionneur. Une collection, ça se travaille, c'est-à-dire qu'on fait partir les jeux qui sont moyens, sans parler des mauvais jeux. Hein,
sans qu'on n'aime pas, quoi.
C'est ça.
Tout simplement ceux auxquels on sait qu'on ne rejouera pas.
Pour toujours remonter la qualité de la collection. Et malheureusement, ben, y a des jeux qui se passent à l'as et qui ne sont pas réédités. Alors c'est peut-être, ça tient peut-être au côté 3D. Parce que c'est quand même assez particulier, mais Pueblo, c'est incroyable.
Il y a autre chose, hein, c'est que je me rappelle à l'époque, je les avais payés cher par rapport au prix des jeux à l'époque. Je parle dans les 40 euros le jeu.
Oui.
À l'époque, la moyenne du prix d'un jeu, c'était plutôt dans les 20, 25 euros. Peut-être 30, mais on montait rarement à 40. Donc payer 40 euros un jeu à l'époque, c'était pas évident.
Oui, mais tu vois, enfin, tu te dis, c'est parce que c'est de la plasturgie, c'est pas du carton, parce que les Chinois le font pas aussi.
Ouais, non, mais je veux dire. À l'époque, donc peut-être qu'ils ont moins marché parce que leur prix était un peu plus costaud.
Ouais.
Je sais pas, ils étaient pas. Enfin, Pueblo encore, c'est. Enfin, en France, ils ne pouvaient pas être connus. Pueblo n'était pas distribué. Et Romis, n'en parlons pas, c'était de la petite édition. Il n'empêche que c'est des vraies perles ludiques qui sont et qui seront toujours dans ma ludothèque, ça c'est évident.
Quand vous voyez un jeu qui vous plaît vraiment, 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 le tirage moyen d'un jeu c'est 3000 exemplaires, soit il va tout exploser, il va devenir Spiel des Jahres et il va tirer à 150 000 exemplaires et là vous le retrouverez tout le temps. Mais un jeu ça a une vie, ça sort de collection et un jour ou l'autre vous ne le retrouverez plus édité. Donc si vous aimez vraiment un jeu, achetez-le.
Voilà, on a oublié de préciser, mais Pueblo, Roomies ou Architecto, etc., ça joue sans lunettes 3D. Profitez-en aussi, c'est pas mal.
Je voulais aussi vous parler d'un café, un café-jeu qui est à Belleville, donc c'est Paris Intramuros. Ça se trouve 6 rue Civial. C'est pratiquement la sortie du métro Belleville. Et ça s'appelle Café Messia. Et le petit gimmick du Café Messia, c'est Play and Hit. Donc vous pouvez venir manger un bout et jouer à un jeu de société. Ils en ont quelques dizaines. Ils sont très contents de vous les expliquer. Et donc le Café Messia est ouvert de 14h à 23h30 du lundi au jeudi et le dimanche. Et le samedi, ça ouvre un petit peu plus tard. On peut y rester jusqu'à 1h du matin. Donc n'hésitez pas, c'est une belle initiative. Je ne sais pas s'il y a énormément de cafés ludiques à Paris. Je sais qu'à Lyon, on est très très bien loti, mais voilà. Donc allez-y, rendez-leur une petite visite. Il faut soutenir cette initiative. Avec la sortie d'Exodus, qui est la deuxième extension pour Battlestar Galactica, je voulais vous parler de ce jeu. En plus, c'est un jeu coopératif, donc c'est un petit peu le thème de cette émission. Alors, Battlestar Galactica, c'est avant tout une série télévisée. C'est sorti en 78, ça fait un an.
Et qu'une saison.
Ouais, je crois. Et puis, c'était repris en 2003, il y a eu un pilote qui dure 3 heures, je crois. Qui raconte le préquel en fait de la série, et puis une série en 4 saisons qui dure de 2004 à 2009. J'attendais que tu me dises oui, mais ça fait 5 ans.
Non, mais je sais. On va dire l'éditeur. C'est parce qu'il y a eu la grève des scénaristes.
C'est ça.
À Hollywood.
C'est ça. C'était l'année où ils se sont mis en grève, et donc ça a fait 2 demi-saisons.
Ça se sent d'ailleurs.
C'est possible.
Enfin, bon, même des fois où ils n'étaient pas en grève non plus, les scénarios ne sont pas terribles.
Voilà.
Tout n'est pas bon dans la série.
Grosso modo, regardez là, c'est pas très long. Il y a 4 saisons et c'est quand même super sympa. Il n'y a pas énormément de séries SF. Enfin, il y a Firefly, il y en a quelques-unes, mais
Tu peux glisser de.
Oui, tu
de
peux,
secondes.
Oui.
Ouais, c'est Babylon 5, exceptionnel.
Et oui, mais bah après, tu as toute la série des Star Trek.
Non, non, mais Babylon 5, c'est vraiment. C'est une autre dimension. Alors, souvent, moi, j'adorais. J'étais captivé par Babylon 5, mais quand je le propose aux gens, ça a été filmé. Donc, c'est la première série qui est filmée en 16/9, donc fin des années 90, 5 saisons. Mais par rapport à Battlestar Galactica, où on voit vraiment que des fois, ils ont mis des épisodes pour meubler, ou ils savent pas où ils vont, etc. Enfin. Ils savent pas trop, je sais pas comment ils ont bâti leur truc, mais c'est l'impression que c'est, les scénarios sont écrits à chaque numéro. Babylon 5, c'est vraiment, dès le départ, les 5 saisons sont posées. Enfin, quand ils ont tourné, ils savaient déjà ce qui se passerait dans chacune des saisons. Mmh. Et c'est excellent, c'est une très bonne intrigue, etc. Le problème, c'est que bah, comme ça date fin des années 90, les effets spéciaux sont pas exceptionnels. Même si c'est filmé en 16/9, ce qui était déjà bien, c'est pas... Et les costumes font kitsch. Souvent, les gens me reprochent les costumes.
Tu veux dire que ça a vieilli, en fait?
Ça a vieilli, bah, surtout, en fait, pour quelqu'un qui a pas envie de se mettre dedans. Par contre, si je te dis que c'est vraiment une série qui a un vrai scénario...
Faut s'investir.
Ça monte en... Ouais, parce qu'après, la première saison est lente à se mettre en place, mais elle met, les bases de ce sur quoi la série va se bâtir sur les saisons suivantes. Il va y avoir un crescendo, et on est vraiment captivé par cette série, par tout ce qui peut arriver... Pendant le scénario, je veux rien dévoiler hein, parce que vraiment on va de surprise en surprise.
Non, mais ne dévoile rien parce que là on parle de Battlestar Galactica.
Quoi. Ouais, mais on parlait des bonnes séries SF. Babylon 5, c'est vraiment c'est le top du top.
D'accord.
C'est pas Star Trek, c'est pas.
Alors on s'arrête tout de suite parce qu'il y a quand même Star Trek, il y a Voyager, il y a Deep Space Nine. Il y a quand même Deep Space Nine, c'est quand même sympa.
Ben, je sais pas, mais dans mon idée, de ce que j'en ai vu, c'est que.
Les puristes préfèrent Babylon 5 à Deep Space Nine, c'est vrai.
Parce que t'as un scénario qui évolue d'épisode en épisode et...
Et on peut parler de Battlestar.
Non, on s'en fiche. Je suis sûr que les auditeurs, ils préfèrent une bonne série SF plutôt qu'un truc, bon, voilà. Par contre, il y a eu un jeu de cartes à collectionner, je crois, sur Babylon 5.
Oui, tout à fait.
Mais bon, ça n'a pas dû marcher.
Donc, revenons à Battlestar Galactica.
Ah bah voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est un jeu édité par Fantasy Flight Game et donc repris par Edge. Ça se joue de 3 à 6 joueurs et puis il faut compter, je pense, au moins 3-4 heures de jeu. C'est un jeu coopératif. Donc, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc l'homme, l'humanité a créé des robots pour l'aider, et puis les robots se sont retournés contre l'humanité. Les robots ont créé des robots à l'image de l'homme, des humanoïdes, et les Cylons ont bombardé les 12 colonies sur lesquelles s'était établie l'humanité. De ce fait, il ne reste qu'une poignée, 50 000 humains, je crois. Une flotte, puisque c'est. Il y a eu une attaque aussi spatiale et il y a très peu de vaisseaux qui en ont réchappé, notamment parce que les Cylons en ont profité pour faire une attaque informatique.
Virale.
Donc les vaisseaux qui sont pilotés par l'informatique ont été tous désactivés et sont fait détruire.
C'est un peu une épincée, quoi.
C'est ça. Et reste un vaisseau qui est le Galactica, qui est dédié à devenir un musée et qui en fait n'a pas toute la technologie moderne, tout à fait, un ancien vaisseau de guerre, un Battlestar. Et il va être en fait le fer de lance de la flotte humaine qui va essayer de résister aux attaques incessantes de Cylons. Donc le jeu commence à ce moment-là et l'idée ça va être pour les joueurs qui sont autour de la table d'arriver jusqu'à Kobold, qui est la destination finale du Battlestar Galactica et de la flotte humaine. Et donc dans le jeu, il y a quatre ressources, qui sont la nourriture, le fuel, le moral et la population. Et l'idée, c'est de ne pas perdre, enfin, ne pas voir sa population se décimer, de ne pas perdre trop son moral, parce qu'on a besoin de moral, ça rejoint un petit peu la série. Et puis forcément, sans fuel ni nourriture, on ne va pas très loin. Donc ça, c'est l'idée. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir des rôles. Donc les différents rôles, on va avoir des pilotes, on va avoir des leaders politiques, on va avoir des leaders militaires, et puis on va avoir des ingénieurs qui vont réparer notamment les endroits endommagés du vaisseau, et notamment les Vipers, qui sont des petits vaisseaux qui protègent la flotte et Battlestar Galactica. Chaque personnage va avoir des avantages et des inconvénients, donc des qualités et des défauts. Donc il y a une qualité intrinsèque au personnage qui va durer toute la partie. Il va avoir une super qualité. Donc une fois par partie, il va pouvoir faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Et puis il a un défaut.
Héroïque.
Héroïque, tout à fait. Et puis il a un défaut qui va le suivre tout le temps. Par exemple, le défaut d'Adama, l'amiral, c'est qu'il ne sait pas envoyer, il a un cœur un peu tendre, il ne sait pas envoyer des gens en prison. Donc l'idée, c'est que à chaque personnage va avoir des... Qu'est-ce qui te fait rire? C'est parce que...
J'ai cru que son défaut, c'était l'alcoolisme.
Ah non, ça c'est... Ça, non, mais c'est, je sais, c'est Soltai, ça.
Oui, mais...
Mais là, c'est,
et lui, par rapport à l'acteur.
C'est ça.
Parce que c'est bizarre, dans la vie, c'est pareil, quoi. Les défauts, ça nous suit toute la vie, et l'action héroïque, c'est une fois de temps en temps, éventuellement. Ça pourrait être l'inverse, hein, pour puis couler un bon grand coup, et être héroïque toute la vie, mais non. C'est ça.
Donc, à chaque personnage, est associé des couleurs de cartes, en fait. Parce que l'idée, c'est que tous les tours, on va pouvoir faire une action. Donc, l'action, ça va être essayer de survivre. Et puis, il va y avoir une crise à surmonter. Et la crise se surmonte en mettant, en jouant des cartes. On va, tous les tours, récupérer 5 cartes avec des couleurs différentes. Et à chaque crise correspond des couleurs. Donc, en fait, selon la crise qui va survenir, on va pouvoir ou non... défausser des cartes pour atteindre un certain seuil et pouvoir la surmonter. Alors ce que je ne vous ai pas dit, certains, en plus de cette carte de personnage, on va avoir une carte d'alignement. Donc ce n'est pas loyal bon, chaotique mauvais, c'est humain ou sinon. Quand on est humain, le but du jeu c'est de survivre. Quand on est sinon, le but du jeu c'est de détruire l'humanité.
Ouh.
Donc, oui.
C'est simple, hein, c'est un peu basique. Hein,
ouais, comme... Mais c'est tout à fait dans la lignée de la série. La série est quand même très manichéenne. C'est du bon américain.
Ah, je trouve pas tant que ça sur la fin, non. Les Cylons changent. Il y a toute la psychologie Cylon qui fait que... Enfin, on va révéler les trucs, mais la psychologie Cylon fait qu'ils s'interrogent sur l'humanité n'est-elle peut-être pas la détruire.
Tout à fait. C'est en fait, au fur et à mesure de la série, on voit des robots qui s'humanisent de plus en plus.
Et les humains
qui se déshumanisent. On peut parler de Walking Dead aussi, mais on va s'en arrêter là. Donc, au début de la partie, chacun va avoir un aliment. Il sera sinon ou humain. En cours de partie, au milieu de la partie, c'est-à-dire que là, on va faire ce qu'on appelle des sauts, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher petit à petit de Kobold. Au milieu de la partie, on va recevoir une carte d'alignement en plus. Et donc, un humain peut devenir un sinon. Sinon, on sera toujours sinon, mais un humain peut devenir sinon. Et ça... c'est clairement un truc extraordinaire. C'est-à-dire quand vous êtes humain, quand vous jouez comme moi, c'est-à-dire moi, quand je suis humain, je joue humain, et je me dis pas, oh, peut-être que je serai si long, alors je vais peut-être un peu lever le pied, parce que quand même, après, ça va être plus difficile quand je serai si long.
C'est dommage. Humain. C'est la force du jeu.
Non,
c'est obligé à pas aller trop fort sur le début.
Ouais, non, mais on s'en fout. Je veux dire, attends, on est humain, et puis si on devient si long, ben on devient si long.
T'as perdu alors. Du coup. Parce que t'as trop bien joué, t'es pénalisé d'avoir trop bien joué la première partie.
C'est un peu comme le jeu de rôle, c'est pas forcément là où on arrive qui compte. C'est pas, on retient rarement.
C'est un RPG.
Si on a gagné ou si on a perdu, oui, il y a du jeu de rôle. parce qu'il y a les rôles et parce que forcément il y a une interaction forte entre les joueurs. Et ils en étaient où ? Oui. Donc en milieu de partie, on va pouvoir changer d'alignement. On va se découvrir comme dans la série. Sinon, et ça c'est extraordinaire. Donc l'autre qualité du jeu, c'est que, comme on en parlait tout à l'heure pour un habit, il ne peut pas y avoir de pression trop forte des autres, puisque alors si tu joues mal, forcément on va penser que tu es sinon. Parce qu'au départ, on se dit, on est tous humains.
Et si tu es sinon, tu joues mal.
Y a, les sinons sont en minorité, tu perds. C'est vite vu. Donc au début du jeu, tout le monde se pense humain et il peut ou pas y avoir des silons infiltrés. Après, en deuxième partie de jeu, et c'est un petit peu le défaut du jeu, c'est que parfois tu as une première partie qui est un petit peu poussif parce qu'il n'y a que des humains ou parce que le silon qui est tout seul ne sait pas comment s'y prendre pour
avancer. Ouais, n'ose pas trop.
Et n'ose pas se dévoiler. Bon, c'est... si vous n'êtes pas fan de la série... Toi, on a joué ensemble ?
Je connaissais pas la série. J'ai regardé la série après avoir joué ensemble. Et ça m'a pas gêné.
Ça t'a pas gêné ?
Non.
Si vous êtes fan de la série, vous allez vous impliquer encore plus et c'est vraiment sympa.
Ouais, je pense qu'on y gagne après à s'impliquer, effectivement. Parce que moi, on sait que tel personnage, on connaît son caractère dans la série. Etc.
Si vous ne connaissez pas la série, pour jouer au jeu de base, vous n'avez qu'à voir le pilote. télécharger le pilote, louez-le en VOD. Je ne sais même pas si ça existe. Trouvez-vous le pilote.
Débrouillez-vous.
Ça vous donnera une bonne idée de l'environnement et vous n'aurez que plus de plaisir à jouer à Battlestar Galactica. Il y a de la tension, il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. On ne peut pas laisser un joueur de côté, puisque à chaque tour, chacun a son rôle à jouer. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et pour moi, c'est vraiment un des tout meilleurs jeux coopératifs existants. Parce que justement, tu n'as pas cette pression et on ne peut pas t'obliger à jouer quoi que ce soit. Ou alors, c'est tout le monde et ça va être des négociations, et ça va être quelque chose de quand même un peu plus. C'est pas quelqu'un qui va dire toi, tu fais ça parce que tu as à faire ça.
Il y a les votes cachés aussi que j'aime bien.
J'ai pas expliqué le déroulement d'une crise. Pour chaque crise, il va y avoir des couleurs qui vont compter en positif. Et toutes les autres couleurs de cartes tactiques, stratégiques, parce qu'on va piocher à chaque tour des cartes de leadership, des cartes d'ingénierie, des cartes politiques. On va pouvoir défausser, elles sont numérotées de 1 à 5. Plus elles ont un numéro important, plus elles ont un texte. Elles peuvent nous permettre de faire des actions puissantes. Ces cartes vont compter en positif et en négatif. Donc, si on veut que les humains échouent, on va jouer des grosses cartes à un moment où ça va être embêtant pour eux de perdre du moral, de perdre de la nourriture, etc. C'est comme ça que sinon on va pouvoir un peu en loose day jouer des cartes, faire passer des cartes qui seront peu favorables à l'humanité et qui vont doucement leur faire perdre de la nourriture, du moral, tout ça. Donc voilà, c'est un très 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 bon jeu. Enfin, moi je suis très fan, vous l'entendez certainement. Jérémy, un peu moins.
Si, ça me donne envie de ressortir le mien en fait.
Voilà. Mais écoute,
je pense que vendredi je vais tenter de le placer.
Vendredi, je suis pas là vendredi.
Ce sera pas avec toi.
Ok, merci. Donc ça c'est le jeu de base. Vous avez aussi Pegasus qui est sorti en 2009 en version originale, certainement l'année dernière en version française. Ça rajoute de nouveaux personnages. Donc si vous commencez, encore une fois, si vous commencez par la boîte de base, vous serez pas spoilé. Quand vous allez avancer dans les extensions, vous allez apprendre des choses, forcément ça suit la série. Notamment, il y a des leaders Cylons qui sont des Cylons qui sont de base connus, et donc c'est une façon de jouer qui est un petit peu différente. Et puis on a un autre vaisseau qui est le Pegasus avec le SAS. Et ça, le SAS, c'est bien. C'est un petit peu ce que je reproche. Alors je vais faire une digression.
Attention.
Vous connaissez les loups-garous de Tiercelieu? Qui est un jeu aussi où on a des villageois qui sont la nuit, certains sont la nuit des loups-garous. Il y a une élimination de façon arbitraire de certains villageois. On essaie d'éliminer les loups-garous et des fois, on se trompe. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que
souvent, c'est des pauvres innocents qu'on envoie à la corde.
Voilà. Et en fait, il y a The Resistance ou Résistance qui est sorti l'année dernière.
C'est vachement mieux.
Qui, lui, joue un petit peu avec les mêmes mécanismes, mais qui ne permet pas de supprimer comment on dit.
Ouais, d'éliminer des
d'éliminer
joueurs.
D'éliminer un joueur. Et moi, c'est ce que je trouve...
Tous les joueurs participent à la discussion tout le temps dans la partie, même s'ils ne sont pas envoyés en mission.
Ouais, mais ça, c'est ce que je trouve un petit peu... J'aime bien quand on élimine des joueurs, en fait. C'est mon côté sadique, tu sais.
Hein, t'aimes bien éliminer des joueurs,
ouais,
toi.
Ouais, ouais. Je trouve que c'est très frustrant si ça tombe toujours sur la même personne.
Mais dans Résistance, je trouve que c'est très fort parce que j'ai fait des parties où on a réussi à faire croire à tout le monde. Ouais. Donc moi, j'étais espion avec les autres espions. On a réussi à faire croire qu'un des joueurs qui était loyal était espion. On l'a vraiment chargé bien comme il faut dès le début et il s'est empêtré dans ses explications et personne ne l'a cru innocent, quoi. C'était très fort. Il n'était pas éliminé de fait, hein, les gens ne pouvaient pas dire il est mort, mais ça marchait quand même très très bien.
Ouais, c'est cette atmosphère de suspicion que vous allez retrouver dans Battlestar Galactica. Dans le jeu de base, on a la prison. C'est jamais très très bien d'envoyer un humain en prison parce qu'il participe plus autant à la résolution des crises. Et là, il y a le SAS. Carrément,
hop là dans l'espace.
Faisons puzzle. Et moi j'aime bien. Mais il faut pas faire de conneries, quoi. Enfin c'est
le joueur qui est éliminé donc. Revient ou
oui,
va
oui,
faire autre chose.
Alors, le joueur ne continue à jouer avec un autre personnage. Oui, bien sinon. Enfin, s'il est sinon, il se dévoile comme sinon. Et puis mais ça fait perdre du moral forcément. C'est pas terrible de...
d'éliminer un leader.
Non,
c'est jamais très bon.
D'éliminer un humain, c'est pas très bon. Surtout quand il en reste plus beaucoup. Et puis, donc il y a une nouvelle sorte de cartes qui sont les cartes traîtrises. Alors forcément, comme on l'indique, il ne faut pas espérer que ça aide l'humanité. Il y a des cartes désespérées, ça renforce en fait le résultat des crises en fait. mais il ne faut pas les rater. Et puis New Caprica, non, je ne vous parlerai pas pour ne pas spoiler. Ça change complètement la fin, donc la fin a changé.
Mais ça, globalement, c'est une extension qui est plus pour des joueurs qui ont déjà bien joué. Enfin, c'est comme toujours pour une extension, on va dire, c'est pour des gens qui aiment le jeu, mais là, a priori...
Oui, tout à fait.
Il faut alors, déjà une maîtrise du jeu, non ?
Alors, c'est une extension à tiroir, on peut l'utiliser comme on veut, on n'est pas obligé de jouer avec New Caprica. Les leaders silos, on n'est pas obligé de les utiliser non plus, mais il vaut mieux être des joueurs expérimentés. Les nouveaux personnages, forcément, bah, ça rajoute de la diversité au choix qu'on a. Parce que quand on a... Enfin, ces caractéristiques propres au personnage, c'est bien d'en utiliser d'autres. Et puis Alsace, surtout. Donc, ça renouvelle agréablement le jeu. Je trouve que c'est vraiment une chouette extension. Et puis, la deuxième extension pour Battlestar Galactica rajoute encore de nouveaux personnages humains. Les cartes qu'on pioche au début de chaque tour, et des cartes 0 et des cartes 6. Les cartes 6 sont supra puissantes. Puis il y a des effets sur chaque carte qui sont aussi ça diversifie le jeu. Le président a des cartes quorum, ça rajoute des cartes quorum, les cartes de destination qui sont les cartes que le commandant seul pioche et qui définissent jusqu'où le bâtiment va. Et puis il y a deux, trois choses complémentaires. Il y a les cartes, ils appellent ça conflicted loyalties.
Loyauté conflictuelle.
Ouais, enfin c'est.
C'est les personnages qui sont un peu tiraillés par les deux bords.
Ouais, c'est ça. Je pense que ça veut. C'est un petit peu compliqué. Je vais pas m'étendre là-dessus.
Ouais, mais je. Ouais.
C'est des buts en fait pour les Cylons ou les humains. Ça rajoute des choses à faire en fait.
Ça colle à la série, quoi.
Voilà. Il y a un mécanisme où la flotte Cylon, dans le jeu de base, il y a une attaque de vaisseau ennemi. Lorsqu'on fait un saut, lorsqu'on avance, cette flotte s'en va. Là, elle reste. Il y a un mécanisme qui fait qu'elle va rester. On va la retrouver un peu plus tard. Et puis, il y a quelque chose de complètement différent que la nébuleuse ionienne ou un truc comme ça. Avec des jetons qui sont positifs ou négatifs, et en fin de compte, ça élimine des joueurs à la fin de la partie. Donc, c'est quand même. Ils sont allés beaucoup plus loin dans la modification du mécanisme.
C'est encore pour des joueurs encore plus expérimentés.
Ouais, je pense que là. Et autant j'aime beaucoup Pegasus parce que ça ajoute des choses sans trop changer
le jeu.
Le jeu, autant Exodus, ça m'a l'air.
C'est pour ceux qui ont fait 100 parties et qui s'ennuient.
Voilà. Alors, il faut rappeler le contexte, hein, FFG, c'est un éditeur qui fait des jeux pour les Américains. Les Américains, ils ne sont pas comme nous, boulimiques de jeux de société. Et ils sont plus orientés vers quelques jeux...
Ils aiment le thème.
Alors d'abord, c'est des jeux à thème un peu plus chaotiques que les Allemands. Et puis c'est surtout, ils aiment rejouer à leur jeu. Ils vont avoir un ou deux jeux en bibliothèque ou 10 jeux, mais pas 200 ou 300 comme on peut avoir.
En fait ils ont une chance.
Ils
n'ont pas aidé, quoi.
Toi qui nous écoutes, tu n'as peut-être pas 200 ou 300 jeux dans ta bibliothèque.
Non, mais 400 ou 500.
Mais j'en connais un qui a au moins 900 jeux. Salut Gus. Et voilà. Et donc, ils font des jeux où tu vas rejouer, quoi. Tu vois, c'est des jeux qui durent 5, 6, 7 heures. Enfin, bon, je parle pas de Battlestar Galactica, c'est 4 ou 5 heures, c'est déjà assez long pour un jeu. Mais bon, t'as 6 personnes sur la table, ça discute, tu passes une super soirée, quoi. Et là, en l'occurrence, t'as une rejouabilité qui est. Ils vont plus loin dans leur rejouabilité.
Ouais, effectivement.
Voilà, Battlestar Galactica, ça doit coûter une quarantaine d'euros.
Ouais. Chaque extension aussi, non ?
Crèmerie. Oui. Enfin, rapporté, c'est toujours pareil.
Non, c'est pas une critique de prix, hein. C'est juste indicatif.
Et surtout, dans l'édition de base, il y avait il y a les vaisseaux mères des Cylons qui est en carton. Ils ont fait des petits, petits vaisseaux en plastoc.
C'est vachement vendeur en plastoc. Alors, en résine.
J'ai pas vu
Made in China.
Je sais pas à quoi va ressembler les éditions Gigamic. Mais alors, Architectos, on dirait vraiment des. Ça sort tout droit. C'est du plastique des années 80. C'est vraiment pourri. Là, c'est vraiment.
Mais on est dans le thème.
Ces petits chinois qui ont bien ciselé tout ça, c'est vraiment des belles petites figurines, c'est vraiment sympa. Voilà, puis après ce long passage sur Battlestar Galactica, mais je pense que ça en valait le coup, et puis de toute façon tu nous as fait quand même... Tu nous as un petit peu retardé avec tes histoires de Babylon 5.
Mais non, il n'y a pas plus de 2 minutes. Mais je peux en reparler si tu veux. Je peux te le prêter, tu parles avec.
Oui.
Mais t'as déjà une heure.
On fera un autre podcast qui ne sera pas consacré aux jeux de société. Alors, les écrans.
Alors, les écrans, actualité très très chargée cette semaine. Mais bon, on va peut-être. Certains jeux, on va juste annoncer les sorties. On en reparlera plus tard une fois qu'on les aura testés.
Mmh, ça
sera
fait.
Pas mal. Donc,
ouh, mais c'est
incroyable.
C'est concept.
Ah, c'est un concept. Je teste et après
j'en
parle.
Ah,
c'est
tout
pas
à
mal.
Fait.
Ouais,
c'est bien.
Ouais, ça déchire un peu. Alors, donc, dans les sorties récentes, dont je vais pas m'étendre dessus. Alors, on va parler donc une des principales, c'est Time's Up.
Ouais.
Donc, tout le monde connaît Time's Up, un jeu où le jeu du saladier, hein, pour beaucoup, avant qu'il soit sorti avec une étiquette. Commercial, on va dire.
Mm-hmm.
Beaucoup de gens connaissent. Hein. Les gens écrivaient sur un bout de papier des personnalités qu'ils connaissent, mais mélangent tout ça dans un saladier.
Ah, c'est pour ça le jeu du
saladier. Ouais. Les gens connaissent ce jeu sous le nom-là. Bon, comme on veut. Donc, sinon, Time's Up, donc, là, c'est sous licence américaine. Il faut donc faire deviner 40 personnalités en 3 manches. Première manche, on a le droit de faire une phrase, etc. Deuxième manche, c'est toujours les mêmes personnalités, mais on a le droit plus qu'à un mot. Et troisième manche, c'est en faisant des mimes.
Puis il y a une quatrième. Il y a une variante avec une quatrième manche qui dit qu'on chante. Mais bon, ça c'est pas bien.
Super, ça valait le coup d'en parler.
elle existe.
Ouais, mais 3, c'est déjà suffisant. Donc, toujours 40 personnages à faire deviner. Le principe du jeu, c'est qu'il a été décliné en plein de versions, notamment la Time's Up Party, qui a la bonne idée d'inclure un buzzer, qui met des sortes de pulsations de cœur au fur et à mesure que le temps avance, et qui en plus pour déconcentrer. Ouais, et qui. Pas ça, quand ça stresse pas trop, mais sur la fin du timing, donc en général on a 30 secondes. Sur le buzzer en plus, on peut régler 20 ou 40 secondes aussi. Sur la fin, il y a des sons, genre un décompte qui est fait par les personnes, etc.
3,
qui vont.
2,
ouais, avec
1.
Des rires, des. Ça va vraiment déconcentrer les joueurs sur la fin pour faire deviner. Donc c'est vraiment parfait. Si vous devez avoir une version de Time's Up Party, c'est sans doute la meilleure. Attention. Pour tirer les prix vers le bas, petite mesquinerie, les piles ne sont pas incluses dans la boîte. C'est vraiment dommage.
Eh, un chou est un chou. Hein.
Ouais, enfin bon.
Alors moi, j'ai Time's Up Family. Ça permet de faire jouer des enfants avec des choses. Alors,
tu fais pas deviner les personnalités dans Time's Up Family.
Non, mais voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est un jeu auquel on peut jouer. On écrit, chacun écrit un nom sur un petit bout de papier. Par contre, c'est la valeur ajoutée de cet éditeur, c'est qu'il a un peu réfléchi à ça et vous avez des choses qui sont faites pour le public visé.
Mais en même temps, Time's Up, il aura le même effet que nous quand on joue au Trivial Pursuit, c'est-à-dire que ça va faire référence à des personnages. Je suis pas sûr que les enfants, s'ils ont Casimir à faire deviner, qu'ils sachent qui c'est.
Non, mais c'est pour ça qu'il y a la version Family.
Oui, mais il faudra que. Enfin, je veux dire, quand on sort c'est pas un bon jeu, mais tu sors un Trivial Pursuit, les questions datent de 1984, c'est un petit peu délicat des
mais
fois d'y répondre.
Parce que toi, t'as un Trivial Pursuit de 84.
Ah, ils en ont réédité, ouais. Mais Time's Up, il faudra le faire.
Le Trivial Pursuit de 10 ans.
Ouais, tout un programme. On fait une soirée spéciale Monopoly de Lyon.
Et après, un séquel sur...
Bref, on n'en est toujours pas commencé les écrans.
C'est comme pour vendredi, tu m'invites pas. Hein. Ok.
Pour
tu sais que je suis libre vendredi.
C'est vrai?
Ouais.
Ah bah, on verra. Mais okay. Si c'est pour plomber l'ambiance, hein, je sais pas.
Ouais.
Bon, ou alors, on fera exprès faire un truc Lyon. Ouais.
Non, tu devrais faire un Battlestar. Tu devais faire un Battlestar avec cliquer. Bon, passons les écrans.
Donc les écrans. Donc iPhone. Donc il est sorti Time's Up sur iPhone.
Oui.
Donc pas testé encore. Donc je vais pas m'étendre dessus.
4,99€.
C'est quand même un prix assez costaud hein, par rapport à ce qui se fait actuellement.
Messieurs les Belges El Sombrero, c'est un peu cher.
Mais je sais pas si c'est eux qui ont fixé le prix. Hein. J'ai pas regardé qui était l'éditeur du truc. Et a priori, on peut acheter en plus parce que je sais pas combien il y a de cartes de base à faire deviner dedans. Mais ils vont pas acheter des sets de cartes en plus. Et c'est encore du 4,99€. Deuxième effet massue.
Ouais, dans la radio des jeux, Mathieu Despneaux parlait justement du portage sur iPhone, iPad.
Ouais.
Après, il y a des paliers psychologiques et c'est pas avec ça qu'ils vont gagner de l'argent. C'est plus une mise en avant
de leur truc. Ouais,
je pense. Ouais. Je pense que ça ouais,
mais un jeu comme Time's Up, bon, de toute façon, il est déjà rentabilisé.
Ah, c'est un blockbuster, ouais. C'est comme ça qu'ils vivent, je pense.
Ah ouais. Ouais. Donc voilà, donc pas testé, donc je vous en parlerai pas plus.
Et on vient donc de faire 5 minutes sur un jeu qu'on n'a pas testé.
Ouais, mais on a encore parlé plus.
Et dont on ne vous parlera pas plus aujourd'hui.
Voilà, on va essayer de vous le tester pour d'ici un mois ou deux.
Avant l'été. Pour pouvoir partir avec son iPhone en vacances et pouvoir...
Jouer à Time's Up sur la plage.
Voilà.
Ouais. Okay. Avec n'importe qui partage le coin de serviette qui est juste à côté si vous êtes sur la Côte d'Azur. Alors, autre jeu, il y avait Photo Party aussi qui est sorti sur iPhone il y a un petit moment et c'est pareil, pas testé.
Mais non, on n'a pas d'amis.
Non. Alors ouais, c'est ça, c'est faire des soirées avec des amis, parce qu'à deux, ça marche pas, quoi. Celui qui prend une photo, l'autre, ça marche pas.
Donc c'est a priori un très beau portage du jeu donc de Cocktail Games, puisque le jeu de base nécessitait un appareil photo. Là, vous avez tout, vous avez le timer, vous avez l'appareil photo, et n'hésitez pas. Cocktail Games s'est spécialisé dans les jeux d'ambiance, avec plein de jeux très très sympas, et donc allez-y.
On l'a pas testé, mais allez-y. Je pense que
le jeu de société est bon, donc avec le porté sur le matériel iPhone
qui a déjà pas photo, je pense effectivement que c'est beaucoup plus pertinent, ouais, comme portage. Voilà, bon, mais bon, moi j'ai pas d'iPhone, donc je pourrais pas bien vous le tester. L'iPad ne fait pas de photos.
Si.
1-2.
Bah oui.
Ouais. Cher auditeur, cotisez-vous. Achetez-moi un iPad 2 et puis je vous testerai photo party, ça me fera très plaisir.
Ça n'arrivera pas.
Si, à chaque fois que je sortirai l'iPad 2, je penserai à tous les heureux donateurs. Voilà. Parce qu'ils seront joyeux, hein, forcément. Ça. Donner comme ça une œuvre.
C'est ça. Je viens d'aparté, c'est un peu comme les gens qui chantent faux dans la rue, donner pour que j'arrête de chanter. Bon,
ouais, ça va bien.
On va la finir, cette chronique. Hein.
Ouais.
Donc, voilà. Hey, that's my fish.
Oh, bah attends, tu me piques mes news. Vas-y. Oui. Alors vas-y, je t'écoute.
Non, c'est une news à Jérémy, donc je vais lui laisser.
Non, je te laisse.
3,99€, c'est universel, ça c'est une bonne chose, et malheureusement c'est en anglais. Et that's my
fish. Voilà, il est ici.
C'est un jeu de pingouins où on va bouger ses pingouins et où la banquise petit à petit va se réduire.
Ouais, c'est un jeu de société.
Et où on va manger les poissons, c'est-à-dire que sur chaque case, on va mettre des poissons, 1, 2, 3 poissons. On va déplacer ces pingouins et on va atterrir sur une case qui va nous rapporter plein de poissons, pardon. Mais forcément la banquise va se réduire au fur et à mesure. Ça se joue bien avec les enfants, enfin je joue à ça, pas sur la version iPhone, le jeu de société est très bien. Et tu as testé la version?
Ouais, alors j'ai testé rapidement parce que le jeu est comme sorti très très récemment. Ouais, bah il est universel, donc on met ce qu'on veut. Le jeu est sorti très récemment. Ce qui est intéressant, c'est que il comporte le logo Fantasy Flight Games. Donc est-ce à dire qu'ils ont maintenant un studio de développement pour jeux iPhone? C'est possible. Je sais pas comment ils ont fait. En tout cas, c'est vraiment marqué que c'est eux. Contrairement à tous les autres jeux où en général ils sont portés par d'autres éditeurs spécialisés dans la version numérique, là c'est vraiment Fantasy Flight Games. Le jeu est sympa. Alors j'ai pas beaucoup testé non plus parce que sorti trop récemment, donc je peux pas bien vous en parler. On peut y jouer à plusieurs humains autour de l'iPad.
La prise en main est facile?
La prise en main est super facile. Là-dessus, on peut jouer à plusieurs sur l'iPad, c'est pas gênant du tout. On peut mettre des ordinateurs qui peuvent jouer, donc on peut choisir en mode easy, normal ou hard. Par contre, on choisit le niveau pour chacun des ordinateurs qu'on va mettre, pas pour...
Oui, comme dans Tical. Dans Tical, tu pouvais choisir pour chaque ordinateur s'il était faiblard ou alors...
J'aime bien quand on met par ordinateur, moi, mais bon, c'est pas grave, ça permet d'un peu... faciliter la
Ah mais attends, tu veux dire la difficulté, c'est pour l'ensemble des IA?
Ouais, là tu mets pour toutes les IA.
D'accord.
Donc ce qui est un peu dommage. Même si en général on met la même complexité à toutes les IA, des fois c'est bien de pouvoir panacher.
Oui, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de facilité pour toi.
Voilà. On peut choisir plein de plateaux de jeux différents, ça aussi c'est sympa. Qu'il va falloir, bien sûr, il y en a plein qui sont bloqués au début qu'il va falloir débloquer. Hein. Faut pas croire, faut jouer un peu. On peut jouer à 4 joueurs autour de la table. Le jeu ensuite est simple, hein, à chacun son tour, on prend son pingouin et puis on le fait avancer sur la case qu'on veut. Ça gère automatiquement, l'avantage c'est que ça gère toutes les manipulations, enlever les tuiles, etc., retirer les pingouins qui sont éliminés, et ça calcule le score aussi en direct. Donc c'est parfait. Le jeu intègre même une petite notion de, on va dire de succès, pour ceux qui connaissent la Xbox, d'achievements.
Ouais, le PSN, enfin...
Ouais.
Maintenant tu vas avoir des succès partout.
Bah, PSN, ils ont copié Microsoft, ouais, ouais. Le système des succès, ouais. C'est très sympa, c'est tout con, hein, le succès, mais bon, bah des fois c'est vrai qu'on va dire tiens, je vais essayer de décrocher. Ouais. Ah, mais il y a des succès que des fois on va essayer d'obtenir.
Oui,
ça redonne une deuxième, enfin ça augmente la durée de vie du jeu.
Non, mais est-ce qu'on en a besoin?
Je sais pas, j'en ai plein qui jouent sans, mais des fois on se dit ah, oh, celui-là il a ma portée, je vais le tenter. Non, tu le fais pas.
Si, dans un jeu vidéo, mais là on est en train de parler d'un jeu de société, bah, on n'a pas besoin de ça.
T'as joué à Plants vs Zombies, tu le fais pas? T'as pas cherché d'avoir tous les achievements?
C'est pas un jeu de société, Plants vs Zombies.
Voilà, ouais,
non,
mais
non,
c'est...
Non, je suis en train de dire, c'est... Enfin,
ah, dans un jeu de société,
c'est... Tu as dit toi-même, c'était artificiel. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est quand même... C'est une façon de prolonger le...
Oui, par exemple, il y en a un, c'est...
Le jeu.
Regardez.
Et là, en l'occurrence, La façon de prolonger le jeu, c'est d'avoir des IA un peu plus compliquées, d'avoir des joueurs autour de la table qui sont un petit peu plus, plus doués que toi, et puis de changer. C'est comme ça que tu vas prolonger le jeu la vie du jeu. C'est pas en faisant des...
Bah là, c'est juste pour jouer en solo. En fait, beaucoup de jeux sur l'iPad, voilà, jouent en solo. D'accord. Donc, ça augmente la durée en solo. Hein. C'est se gagner contre des ordinateurs en mode difficile, etc. La même chose, c'est regarder simplement 4 ordinateurs jouer. Bon, passionnant. Hein. Ouais.
Pas mal.
Voilà, super. Tu lances le truc, puis tu vas te laver les dents, quoi. Tu reviens à la fin, ils ont fini de jouer.
C'est, bah, justement, tu te laves les dents en combien de temps, toi ?
2 minutes, c'est le timer de ma brosse à dents électrique.
Et donc, en 2 minutes, ils ont fini la partie ?
Je sais pas, on va essayer. Bon, pendant ce temps, on va parler d'autre chose.
Bon, alors, la durée d'une partie, c'est combien ? Parce que c'est pas très très long, non ?
Ah non, là-dessus, tu joues en 2 minutes, justement.
D'accord, oui, c'est bon que ça suffit. Là.
Ouais, à mon avis, c'est très simple.
Ah, et tu vas...
C'est parti. Ah, j'ai pas écouté ici une petite musique, moi. J'ai
oui, la petite musique.
J'ai l'habitude de toujours couper le son.
Voilà, et c'est comme ça pendant 2 minutes.
C'est vite agaçant, bon. Je pense qu'il est normal qu'on coupe le son à ce genre de truc.
Alors, Hey, That's My Fish, 3,99€, c'est FFG qui sort ça.
Ah là, malheureusement. Donc il est sur le store français, malheureusement en anglais seulement. Bon, il n'y a pas beaucoup de texte en anglais non plus, mais... Ah, mais je sais qu'il y a des gens que ça gêne.
Ouais, mais tu vois, quand tu pars, là, ça va être les grandes vacances, on va partir avec l'iPad, on pourra jouer avec l'enfant.
Exactement. C'est parfait. Je pense que ces genres de jeux, c'est bien en plus, on peut, ouais.
Mais par contre, quid de. Ça veut dire qu'ils n'ont plus envie d'éditer le jeu.
Non, bah, je pense que tu reviens.
Le problème, c'est la concurrence entre. Est-ce que c'est une mise en avant du jeu et que les gens vont. Enfin, quand t'as ça sur ton iPad, tu vas pas acheter ça en jeu de société en boîte carton.
Bah non, mais c'est comme les jeux cocktails, c'est la même chose. La partie est déjà terminée.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, ça met en avant le jeu. Après, je suis d'accord, moi, je. Enfin. Je sais pas.
Non. On est à un tournant en fait. On est à.
Ouais, on est un tournant.
Il y a des choses qui se construisent donc. Bon.
En parlant de tournant, je vais rebondir et je vais attaquer Alien Menace.
Oui, Alien Menace qui sort en version iPad, iPhone avant d'être sorti.
Avant le jeu de société. Alors est-ce que c'est bien ou pas ? J'en sais rien parce que du coup, vous faites votre avis sur le jeu à pas cher en achetant le jeu sur l'App Store.
Ouais.
Et après, vous vous dites ah, mais c'est horrible, j'achèterai jamais de jeu de société. Ou alors à l'inverse, vous dites « Oh, c'est génial, c'est il me faut le jeu de société
ouais. ».
On sait pas. Mais il faut vraiment être sûr que le jeu... En fait, c'est pas ça hein, qui fait que... C'est juste qu'ils ont un retard d'édition qui fait que les deux versions ne sortent pas en même temps. Mmh. Mais...
Donc 1,59€, c'est universel et c'est en français. Alors, moi, j'ai joué à Alien Menace. Je suis pas convaincu.
Est-ce que ça te casse ?
Non, je suis pas convaincu. Alors d'abord, les graphismes sont ce qu'ils sont. Ils me font passer à Duke Nukem un petit peu, assez pixelisé. Il y a un bonhomme. L'idée c'est qu'on va avoir 6 salles. Dans chaque salle, c'est un jeu de cartes. Dans chaque
oui, c'est un jeu de gestion de cartes. Ouais.
Voilà, on va jouer des événements, puis après des cartes. On va rencontrer un nombre. Toutes les salles ont en fait
un
environnement différent. Donc il y a un nombre différent de monstres, on va plus ou moins piocher de cartes si on est marines ou si on joue les monstres. Parce que, justement, il y a un joueur qui joue le mal, hein, qui joue entre guillemets le bien. Si tant est qu'un marine, c'est le mien.
et si puis, tu as des gros flingues et voilà. Des stéroïdes, c'est pour toi.
Donc l'idée, c'est d'arriver à la 6e salle où tu vas avoir un portail et détruire le portail. Bon. Premier problème, c'est que il y a des moments où tu as le graphisme de la salle qui bouge de gauche à droite comme ça, et c'est horrible.
Et ça flash en plus.
Oh,
quand c'est dans la salle du portail ou machin, t'en prends plein.
Il y a des choses. Bon.
C'est pour ajouter une fausse animation, ouais, je suis d'accord. C'est inutile en plus, ça rallonge le jeu pour rien.
C'est un graphisme BD, qui est. Pas mal en fin de compte, donc ça fait un environnement de vaisseau spatial comme on peut imaginer. Mais par contre, là, ça donne un peu le mal de mer. Moi, j'ai pas super apprécié.
Ça, c'est le portage. Maintenant, le jeu en lui-même.
Le jeu en lui-même. Deux solutions. Où j'ai pas très bien compris.
Vous aimez ou vous aimez pas.
Moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Dans le sens où. J'ai trouvé que c'était très mécanique. Les choix à faire sont très mécaniques. De toute façon, t'as des événements.
Y a pas de choix.
Forcément, tu vas cramer les cartes, tu vas piocher les cartes, tu vas faire baisser le nombre de cartes. Effectivement, on va dire oui, mais si l'alien a moins de cartes que le Marines, alors l'alien va pouvoir faire des fossés du Marines. Ok. Mais le fait que l'alien ait moins de cartes en main, ça permet, même si c'est lui qui choisit, ça permet toi d'avoir des ressources en plus, et ça, c'est toujours bien. Deuxième chose, Tous les monstres ont un certain niveau et le marine, c'est 3 vies. L'idée, c'est juste une gestion de la main et une gestion des vies. C'est-à-dire, faut savoir quand arrêter et se dire je perds le combat, je vais passer d'une salle et puis je vais avancer. Après, si tu tombes sur un monstre qui a 5 en force, tu vas lui mettre une carte 7 en face. Si le monstre a 1 en force, tu vas lui mettre ta plus petite
C'est
carte.
même plus compliqué, c'est que les aliens ne peuvent pas booster leur force en jouant des jetons qui sont un pile ou face, alors que le marine, t'as plein de choses, tu peux jouer autant de cartes que tu veux.
C'est si on met exactement, strictement
Égal, c'est bon.
le même chiffre, là, on peut jouer à pile ou face. Donc on a des boosts de 1 à pile ou face. On aime, on n'aime pas. Ça peut être rigolo, mais quand il faut jeter, enfin, faire tourner 3, 4, 5 fois une pièce, bon, au bout d'un moment, tu te dis qu'il y a peut-être autre chose. Tu vois, à la limite, on joue au dé, quoi. On joue au dé, puis le plus grand l'emporte.
Ouais, à 81.
Non, mais. Non, mais en l'occurrence, oui, il y a des jeux dés qui sont plus intéressants qu'Alien Menace, par
Un
exemple.
Perudo.
Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé. J'ai fait en novice et en normal, j'ai fait 6 ou 7 parties. C'est toujours la même chose.
T'avais
C'est-à-dire
beaucoup de
que.
temps quand même, hein.
Ouais, mais ça, c'est pas le problème. Enfin, l'idée, c'est que. Pour moi, c'est trop mécanique.
Pour moi, alors moi, il y a deux choses dans le jeu. J'ai quand même une question parce que
Oui.
le jeu, je me suis pas enseigné savoir d'où il sort. Parce que sur le jeu, quand même, il y a dans le visuel, dans les visuels des cartes, je crois, il y a un bas, on dirait que c'est écrit en je sais pas quoi, en japonais, en coréen, enfin bref, un truc asiatique. Donc je me dis, le jeu n'est pas de chez nous. Il vient pas de, c'est pas un jeu européen à la base. Ce qui peut expliquer justement ce côté un peu, il n'y a pas tant de choix à faire que ça.
Mécanique
Ouais, ce côté.
obligatoire.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Donc du coup, quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de jeu. Donc bon, peut-être qu'effectivement, c'est dans une autre, parce qu'on sait que les Japonais ont des jeux vraiment, vraiment différents, où c'est pareil, des fois le thème va être plus important pour eux, ils aiment se sentir dedans. Donc ça, je sais pas. Et pour moi, l'autre problème, c'est sur le portage, c'est que c'est lent. C'est d'une lenteur abominable.
Ouais, mais ça c'est il y a une peut-être que t'as pas joué à la bonne version, ils ont eu un problème et ils ont mis à jour
Ah ben bah, j'ai pas fait la
le
mise à
délire.
jour. Mais bah non
Ouais.
mais du coup je veux dire, à chaque fois, bah ok on voit la salle, alors elle défile à gauche, à droite. Et après seulement je peux faire quelque chose. Quand je tire à pile ou face, faut que j'attende qu'il y ait pile ou face. Quand je fais des actions, etc., faut que j'attende un moment que l'alien réfléchisse. Enfin ça va, c'est super lent. Dans plein d'autres jeux, les interactions qui sont gérées par ordinateur sont très rapides. Là c'est lent. Après effectivement il y a l'aspect gestion de main, on peut dire ouais c'est intéressant une gestion de main, mais effectivement les calculs sont vite faits et il n'y a pas beaucoup de choix.
Alors, ça va sortir chez Asgard en juillet. Donc, la seule chose, c'est. Enfin, moi, personnellement, je vous dirais, n'achetez pas ce jeu. Il y en a plein de bien mieux et. Enfin, tout
À la rigueur, à
dépend.
1,59€ pour se faire un avis du jeu qui sortira ensuite
Oui,
en
mais moi,
vrai, ce serait
enfin,
bien.
moi, je préfère. Enfin, tu vois, le problème, c'est que.
Oui, non, j'ai plein de bons jeux à conseiller à ce prix-là.
Voilà, c'est ça.
Même sur iPad, iPhone.
C'est ça. Donc pour moi, attendez, attendons la sortie du jeu de société. Attendons de voir ce que ça donne. Éventuellement, il y aura peut-être un petit peu plus de cartes, un peu plus de rebondissements. Peut-être que le jeu va s'étoffer et va être un peu plus intéressant pour nous. Là, en l'occurrence, ça joue qu'à un seul. Puis c'est ça. Hein. Enfin, on va vous en parler tout de suite après, mais
Voilà, c'est dit.
Voilà.
Je continue vite fait dans ce que j'ai
Tu voulais
trouvé.
nous parler de Dominion?
Ouais, alors on peut parler. Alors je vais parler des Dominions. Alors allons-y. Je veux pas d'autre chose. Mais... Alors Dominion. Alors ce que je vais vous parler de Dominion, c'est pas le portage du jeu de société directement sur tablette. Pourtant, peut-être qu'un jour il y arrivera.
Donc juste pour rappel, le Dominion, c'est un jeu de construction de paquets de cartes.
Ouais.
Donc en fait, c'est pas comme dans un jeu où chacun commence avec des cartes où on pioche au hasard.
Où chacun a construit son deck avant la partie, on va
Ouais,
dire, comme Magic,
ou
par exemple.
comme un jeu de cartes à collectionner ou un JCE où on va construire son deck et après on va y aller. Là, en fait, toutes les cartes sont posées sur la table et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir les acheter, les mettre dans la main et puis les jouer.
On a des actions et des achats, voilà. Et le but, c'est de gagner des points de victoire. Dominion, c'est excellent. Ça a gagné le Spiel il y a 2 ans. Il faut en manger. Au moins le jeu de base, au moins l'intrigue si vous aimez. Après, bon, il y a plein d'extensions. Après, c'est à voir. Et donc. Je ne sais pas s'il y aura une version sur tablette un jour qui va sortir. Si vous voulez découvrir Dominion, vous pouvez déjà jouer sur Board Game Arena. Il existe déjà une version en ligne qui est très bien avec une communauté de joueurs qui permet toujours de faire une partie souvent à deux, mais ça peut être à plus, sur le site en ligne et gratuitement. Donc ça, c'est très bien. Là, ce dont je vais vous parler, en fait, ce sont des jeux. Donc Dominion, dans la boîte de base, il doit y avoir 40 cartes différentes. On joue qu'avec 10. Non, il n'y en a pas 40, il y en a 26, je crois, dans une boîte.
Ouais, 25, je crois.
Et il y a des dispositions de cartes conseillées pour démarrer le jeu, pour découvrir le jeu. Mais ensuite, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on en prend 10 au hasard et on joue avec. Ça donne des parties complètement différentes. Et ça encourage aussi, du coup, à acheter des extensions pour amener de la diversité. Des extensions, à ce jour, il y en a maintenant 3 ou 4. Il y a eu l'intrigue, donc il y a eu après Dominion, il y a eu l'intrigue, qui est aussi une boîte de jeu standalone. On peut aussi acheter que l'intrigue et jouer avec. Ensuite, les autres extensions, par contre, il faut déjà posséder une des deux boîtes de base, donc Dominion ou Dominion Intrigue. Donc les autres extensions qui sont sorties après, il y a eu Rivage, Seaside en anglais. Ensuite, il y a eu Alchimie. Et puis, il y a eu Prospérité. Et tout récemment, il y en a une nouvelle qui se profile, qui est Abondance. Donc en français, elle n'est pas encore arrivée. Son nom anglais, je ne sais pas.
Abundance.
C'est Abundance, non, je suis pas sûr justement, parce que j'ai vu dans d'autres choses.
Alors, et donc, Dominion, l'intrigue, Seaside, Prosperity, Alchemy.
Ouais.
Alors, je suis sur Board Game Geek, donc il y a toutes les cartes.
Oui, les cartes promotionnelles, ok.
T'en as
une qui s'appelle Coupeau machin, je sais pas quoi.
Cornucopia. C'est ça, Cornucopia.
Ouais, Cornucopia, voilà. Et ça, c'est la vraie. Ça, je pense que c'est la version Abundance, non?
Mais oui, la corne d'abondance, Cornucopia.
Bien sûr. Suis-je bête. Donc ça doit être au même format qu'Alchimie, hein. Je pense que c'est des... En fait, ouais, ils sortent une grosse boîte par an, enfin pour Essonne, et pour l'été, ils sortent au printemps, en été, on va dire, ils sortent une petite boîte avec un peu moins de cartes. Ouais, un peu moins cher, et ça prend moins de place.
Il y a 5 cartes. Là.
Ah oui, c'est vraiment mini. Ils n'avaient plus d'idées.
Des cartes de royaume. 13 cartes de royaume et 5
si,
cartes.
Ah si, 13 cartes de... D'accord, ok. Donc... Le problème, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces extensions, et ben pour démarrer une partie, si on veut piocher un peu dans tout ça des cartes au hasard, ça fait un peu, ça fait beaucoup.
Oui, je me demandais pourquoi tu nous faisais la liste des...
Comme ça me fait plaisir.
D'accord.
J'aime être exhaustif. Et donc, il existe sur Android plusieurs versions et sur iPhone. Donc, j'ai découvert, en fait, je pensais que ça n'existait pas. En fait, j'ai découvert qu'il y en avait un certain nombre aussi de petites applications qui permettent de faire le choix... pour vous, en fait, qui vont brasser pour vous les cartes et qui vont vous en proposer 10 à mettre en jeu.
Excuse-moi, c'est des fan apps ou c'est des applications, donc des applications qui ont été faites par des fans ou alors
tout
des...
à fait. Ouais, c'est pas des trucs officiels.
D'accord.
Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout, c'est que dans le tas, il y en a un certain nombre qui sont gratuites. Et là, je vois déjà votre œil qui pétille, cher auditeur. Donc, sur Android, celle que je connais qui est mieux, il y en a d'autres, je pense, mais celle que j'utilise avec des amis pour jouer, c'est Dominion Shuffle. Donc c'est parfait, ça permet vraiment...
T'as un Android, toi?
Ouais, j'ai des collègues au boulot.
D'accord.
Donc, nous jouons au travail entre midi et deux. Je ne dirai pas mon employeur. Donc, il est possible de jouer, de sélectionner les cartes avec Dominion Shuffle sur Android. Ça fait tout bien, c'est-à-dire qu'on peut choisir dans quelles extensions on veut, dans chaque extension combien de cartes on veut, etc. On peut lui refuser certaines cartes. On peut lui demander aussi de nous repiocher 10 cartes. Enfin, dans les cartes, on veut pas les 10 de la partie précédente. Tout ça, c'est possible.
Ah, garde en mémoire ce que t'as déjà joué.
Ouais, juste le truc d'avant. C'est pas mal. Enfin, on peut faire plein de choses comme ça. On peut dire interdit cette carte, je veux pas la voir, elle m'énerve, etc. On peut dire je veux pas jouer avec telle extension. Tout est possible. Il gère même les cartes promotionnelles. Voilà, donc ça c'est Dominion Shuffle sur Android. Sur iPhone, j'en ai trouvé 3 autres. Donc il y a Dominion Mignon, qui est vendu à 79 centimes, qui est dans toutes les langues, et qui contient
dans
aussi...
toutes les langues, ça fait le tchèque aussi?
Enfin, je dis multilingue, ouais. Enfin, il y a quand même vraiment beaucoup de langues. Je sais pas.
S'il n'y a pas tchèque ou mandarin, au moins c'est pas multilingue, hein.
Ah bon?
Alors, ça se passe toutes les langues.
Il y a une langue asiatique hein, dans le tas, je crois.
D'accord.
Attends, parce que c'est ça.
Non, mais vas-y.
Je vais être obligé de le lancer.
Non, roule, parce que sinon. Donc, Dominion Mignon, 79
Dominion
centimes.
Dominion Mignon, 79
iPhone.
Centimes. Voilà, ça fait pas mal de choses, notamment à peu près tout ce que fait Dominion Shuffle. Son souci, c'est qu'il y a un concurrent qui fait mieux.
Tu veux dire qu'il fait mieux parce que c'est gratuit?
Voilà, c'est ça. En fait, il a deux concurrents gratuits. Donc, on va parler du moins bien d'abord et du top après. Donc, Dominion Chooser. Donc, qui permet de choisir rapidement. Donc, c'est simple. Hein, il fait deux écrans, l'application. On peut choisir avec quelles extensions on veut jouer. Combien de cartes on veut de chaque extension. On lance. hop, il nous génère automatiquement 10 cartes.
Non, très simple, mais efficace.
Il mélange, voilà. S'il y a besoin de rappeler, par exemple, qu'il faut introduire les potions, etc., on peut le faire. Si on veut le détail d'une carte, il suffit de cliquer, il y a un petit info et on a l'info en, en alerte et on peut tout de suite changer. Donc voilà. On peut tout de suite avoir les infos. Ensuite, on peut demander, si on veut, on peut lui demander d'en remélanger 5 ou de tout remélanger si ça ne nous plaît pas. Voilà. Mm-hmm. C'est facile. À mon avis, ça ne prend pas beaucoup de place en mémoire sur l'iPhone. C'est parfait. Vraiment simple, fonctionnel. Donc ça, déjà, je trouvais que c'était pas mal. Et en fait, j'ai trouvé encore mieux.
Et quand tu dis encore mieux, c'est encore mieux que Dominion Chooser, Shuffle ?
Que Dominion Mignon, ouais. Ou c'est comme Dominion Shuffle, c'est du même niveau, c'est gratuit. Ça s'appelle Dominion Kingdom Deck. Dominion KD. On peut choisir pareil. Donc c'est gratuit, hein, donc on la trouve sur l'App Store. On peut donc régler dans les préférences les cartes qu'on veut aussi pour chaque extension. Si on veut, il y a des extensions qu'on veut pas, etc. On peut donc dans les langues qui sont gérées, c'est impressionnant.
Tu fais le mandarin aussi ?
Bah écoute, je sais pas, ces trucs carrés là, je sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, je suis bien emmerdé maintenant. Il m'a mis les langues en truc. Tiens, il fait le slovène. Il fait le Chestina, là, c'est peut-être bien le tchèque.
Ah, c'est ça.
Français. Très il bien. Fait le Swami, je sais pas ce que c'est.
Ah, ben c'est vraiment universel alors, tu vois.
Il est vraiment incroyable. Hein. Voilà, et gratuitement. Hein. Alors peut-être qu'il y a des erreurs dans ces langues-là, mais on peut pas s'en rendre compte. Mais on peut mémoriser automatiquement.
Bah écoute, je ne sais
on
pas.
Peut, on peut mémoriser les. S'il y a une liste qui nous a bien plu, on a fait la partie, on trouve qu'elle est bien, on peut la sauvegarder pour plus tard, pour la ressortir par exemple.
Ouais, c'est l'avantage de ce genre de liste, c'est de savoir ce à quoi t'as déjà joué pour pas revenir dessus. Par rapport à la boîte remplie de tes extensions, ça permet de dire j'enlève les extensions auxquelles je ne veux pas jouer. Et puis, ça te permet de faire des listes de jeux. C'est un peu plus. Ça, c'est la valeur ajoutée de ce que tu peux attendre.
Il intègre aussi toutes les versions, un certain nombre de versions qui sont déjà dans les boîtes de base aussi. Non, il est vraiment lieu complet.
Donc, Kingdom. Pour
Kingdom Deck. Dominion Kingdom Deck.
Kingdom Deck.
Au niveau graphisme, il n'y a rien. Hein. C'est le standard Apple de base. Hein.
C'est
mais
comme dans.
On s'en fiche, c'est gratuit.
Dominion Chooser ou les autres.
Ouais, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on va demander de plus ? C'est incroyable. On peut choisir les cartes, tout ce qu'on veut, etc. Donc voilà.
C'est le prix de la carte.
Ouais, t'as le prix, ouais. Ouais, un truc tout bête. Hein. Et puis si c'est une carte d'attaque, une carte de défense, une carte de victoire. C'est tout bête, c'est bien fait, c'est bien pensé. On voit que ça a été testé parce que tout est sous la main très facilement. C'est la version 1.3.3, donc voilà. Ça a été fait par Jerry Sou. Je sais pas comment on prononce. Il y a les noms des traducteurs aussi. Voilà. C'est parfait. Donc on vous mettra ça sur le site pour que vous ayez tous les liens.
Voilà. On finit peut-être par 7.
Alors 7, ouais, où je voulais en reparler une autre fois éventuellement. Qu'il était sorti simplement. Il y a 7 Pro HD, sur iPad par contre qui est sorti.
Par contre, 7 est une petite boîte, il vaut 5,99€ sur iPad.
Ouais, en vrai, en version carton, on va dire, il vaut 15€ et sur iPad, il vaut 6€.
Là, ça fait cher quand même.
J'ai pas beaucoup joué. Il introduit des nouvelles variantes par rapport au jeu de base. Il manipule quand même les cartes pour nous, ce qui est quand même un sacré avantage par rapport au jeu. Mais on va le garder pour la prochaine fois.
Sans problème. J'ai pas écouté, voilà. C'est la fin.
C'est triste de vous l'annoncer comme ça, on vous prend un peu de cours, mais.
Voilà.
On avait plein encore de sujets, mais bon, bah.
Ouais, on va peut-être en garder un petit peu pour plus tard. Et voilà. Puis le temps passe. Ouais,
parce que les enfants commencent à frapper à la cave. Il est temps d'aller les charger.
Il va falloir changer les QL. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, on a enregistré d'après-midi dans l'après-midi. On a bien noté qu'il fallait qu'on soit un tout petit peu plus dynamique, donc on espère que ça l'a été cette fois-ci. Moi j'ai encore pris pas mal de plaisir à enregistrer cette émission, à parler de plein de jeux de société avec Jérémy.
Et on a encore appris plein de choses intéressantes,
ouais.
Notamment que vous pouvez absolument regarder Babylon 5,
c'est ça,
et jouer à Battlestar Galactica.
Ouais, il faut jouer à Battlestar Galactica, mais sauf le problème, ah oui, il y a juste un truc qu'on n'a pas dit, jouer à Hellsing's Fire.
Non mais on en parlera la prochaine
fois.
Il
faut jouer à Hellsing's Fire.
Mais c'est un jeu sur iPhone qui vient de sortir sur iPad, mais une fois que vous aurez commencé, alors il est à 79 centimes cette semaine uniquement, c'est la semaine de lancement.
Ouais.
Mais attention, parce que vous aurez le podcast vendredi, donc il va falloir vous dépêcher.
Non, mais je vais tweeter comme ça, je vais le dire.
Foncez, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, c'est
ouais,
excellent.
C'est
un
quoi,
excellent
prix, un 59, un 49, un 99.
Non, il est à 79.
Non, mais sinon, le prix après, tu le connais?
Bah, alors, la version iPad, il va faire plus cher. La version iPhone.
Il est à 79.
Ouais, on va dire ça.
Allez-y, si vous avez un iPhone, allez-y, les yeux fermés.
Ouais,
bon, et bien écoutez, le prochain dossier, c'est un dossier sur le Mulcu. Il fait beau, il fait chaud. Il faut jouer au Mulcu en mangeant des grillades. C'est bientôt l'Open de France de Mulcu en septembre prochain. Très belle affiche qui a été faite par Marie Cardois. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt.
À bientôt.